Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC pour les meilleurs moments de la première partie de saison de Rotten sans flamme. Encore une fois, une merveilleuse année 2026 à vous tous. RMC radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Rotten sans flamme sera mobilisé pour vous faire vivre l'événement de la meilleure des façons. Jérôme Rotten et toute la Dream Team de retour dès lundi 18h-20h sur RMC. Et on en profite aujourd'hui pour revivre les meilleurs moments de la première partie de saison avec des interviews très fortes aujourd'hui. La première concerne Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, qui nous a reçus le 27 novembre au campus PSG avec l'analyse de ce début de saison et le retour sur la saison incroyable de l'an passé, cette Ligue des Champions remportée. Et puis autre interview exceptionnelle, celle de Sébastien Pocognoli à 19h, le nouveau coach de l'AS Monaco qui avait demandé des conseils à Eric Dimeco et Jérôme Rotten. On y va pour Marquinhos, c'est parti, c'était en direct du campus le 27 novembre, écoutez.
Bonsoir Lopin et Marquinhos, c'est parti très fort en Parc des Princes, le capitaine montre la voie.
Ça y est, c'est le jour des gloires,
qu'on a tellement travaillé pour y arriver.
Beaucoup de chemins à parcourir, beaucoup de kilomètres, beaucoup de matchs, beaucoup d'efforts, des moments difficiles, je suis vraiment fier.
Ça y est, il l'a pris dans les bras, les petits pas et la levée de la Ligue des Champions. Merci Paris pour cette soirée, inoubliable.
Champion mon frère, champion, le champion
d'Europe. 500e match sous le maillot parisien hier soir pour Marquinhos, victoire 5-3 du PSG face à Tottenham en Ligue des Champions, un triplé de Vitinha, on y reviendra, mais l'événement, c'est donc ce cap franchi par le capitaine parisien, 500 matchs, Marquinhos, arrivé à 19 ans en 2013 au début de l'ère Qatari, il a tout connu avec ce PSG, Marquinhos, invité exceptionnel de Rotten sans flamme. Salut Marquis.
Salut Marquis.
Salut Jean.
Ça va
Marquis. Ça va.
Ouais, pas trop fatigué, bien récupéré du match d'hier.
Juste le ballon à la tête, ça m'a
Ouais, tu m'as fait peur, hein, parce que si moi je l'avais pris à l'époque à la tête, je crois que je restais allongé, j'étais KO pendant 3 jours. Hein.
Ouais, c'était dur, mais bon, il y avait un corner derrière, alors je devais me lever vite.
Il fallait que tu reprennes tes esprits. Bon, match particulier pour toi hier, déjà, outre le résultat et l'importance de ce match, pour toi 500e au Paris Saint-Germain. C'est quand même incroyable, comme Benoît te présente comme la légende. Oui, tu es la légende du Paris Saint-Germain.
500 matchs.
Comment t'as vécu ce match-là?
Ouais, c'était un match particulier, match de Champions League en plus. On savait de la difficulté. Alors, je voulais vraiment que l'équipe gagne pour qu'on puisse célébrer bien. Moi, en tant que défenseur, je voulais pas prendre ce but-là qu'on a pris hier. Et ça me fait chier un peu à cause de ça. Mais bon, je pense que ça a été un bon match. J'arrivais à tenir mes émotions pendant ce match. 500, c'est quand même
c'est énorme.
Tu réalises quand même, Marquinhos,
des fois, non.
500 matchs avec le PSG, t'es arrivé à 19 ans, t'en as 31 aujourd'hui.
Des fois, non. Je pense que Jérôme peut vous dire très bien aussi, ça passe tellement dans une dynamique dans notre vie que des fois, on ne se rend pas compte des choses qu'on arrive à faire et accomplir. Tu vois, ça. Quand je vois le numéro là devant moi, j'ai la médaille et tout. J'ai réalisé un peu, après les gens ils me saluent, on parle un peu avec les gens du club aussi qui m'ont vu arriver, tu vois, ça me touche beaucoup, mais des fois dans notre vie ça va tellement dans une dynamique tellement rapide qu'on ne se rend pas compte de ces numéros-là, mais voilà, c'est vraiment très beau.
Qu'est-ce qui est le... Alors après c'est difficile de ressortir un moment, je sais ce que tu vas me sortir, le moment qui t'a le plus marqué au Paris Saint-Germain depuis quasiment 13 ans maintenant. C'est quoi qui te marque le plus dans ce club et est-ce que toi tu as ressenti sur le terrain?
Ouais, j'ai quelques moments, des émotions ici très belles. Mais voilà, le titre en Champions League, c'est toujours
au-dessus de tout.
C'est le numéro un. Je pense que c'est le moment le plus marquant pour moi et je pense que pas que pour moi, pour tous les supporters, pour tous les gens qui adorent ce club, c'était vraiment un moment particulier. Mais je peux citer beaucoup d'autres à mon arrivée. Tu vois, très jeune, moi, j'étais malade quand je suis arrivé.
En plus,
le club m'a fait
confiance
sur mon talent et sur l'année que j'ai fait à la Roma. Le président, il était très, il m'a fait beaucoup de confiance dans ce moment-là. même dans la difficulté, tu vois, et ça, je valorise beaucoup. Lui, il valorise beaucoup aussi parce que, voilà, ça, au final, ça a bien marché, ça a payé, tu vois, ça. Et bon, cette trajectoire, elle était quand même folle, tu vois, avec des bons moments, avec des moments moins
plus
bons,
dur, ouais.
plus durs. Moi, en particulier, le club aussi, il y a eu des moments difficiles. Moi, j'ai grandi avec ces expériences, avec ces moments-là. Le club aussi, il a grandi avec ces moments et ces expériences. Et c'est pour ça qu'il est, voilà, on a vécu un peu la même trajectoire. Et moi, le club, c'est pour ça, c'est une histoire vraiment spéciale, ouais. fusionnelle de ma part et de club.
T'es le dernier rescapé, hein, de
le symbole.
Rescapé, ouais. façon de parler, parce qu'il y a eu des bonnes périodes, comme tu le dis. Il y a eu des périodes noires. On se souvient de la remontada. Alors, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais forcément, on est obligé de t'en parler. Je pense que ces périodes-là, et tu l'as dit, et c'est important ce que tu dis, et moi, je voulais te poser la question là-dessus. Ce rapport fusionnel avec le président Nasser El Khelaïfi, c'est vrai qu'il t'a fait confiance d'entrée. Et puis, vous avez grandi, même lui, avec toi. Avec ces échecs-là et ces bons matchs, qu'est-ce que tu as mis en place pour rebondir à chaque fois quand tu as des grosses claques? Et la plus grosse claque de l'histoire du club, ça a été cette remontada.
Ouais, je pense que le président, ça a été une pièce dans cette motivation, dans ce pour rebondir. Et voilà, j'ai dit toutes les fois que j'ai pu, je vais dire encore. Parce que lui, il n'a jamais en douté d'abord de moi et des joueurs qu'il avait sur ses mains et dans le groupe. Tu vois, ça a été toujours quelqu'un qui, pour lui, les joueurs qu'il avait ici, le joueur qui portait ce maillot fièrement, ça a été toujours les meilleurs au monde. Et lui, il cesse pas à le dire. Et même des fois quand nous on en doute, les supporters ils en doutent, les gens, les journalistes ils en doutent, le président il a jamais en douté de son équipe et de ses joueurs. Et après t'as, voilà, ma famille aussi a toujours été mon point et ma forteresse pour que je puisse toujours rebondir de ces moments difficiles.
Ah, vous êtes français de toute façon.
Ouais.
Non, plus que brésilien.
Presque, tu vois. 13 ans en France et 18 ans au Brésil.
Ouais, c'est pour ça. Ouais, les enfants sont nés en France.
Et les enfants sont nés en France. Vu que tu vas finir ta carrière ici, tu vas dépasser le nombre d'années ici en France.
J'espère bien.
Justement, Marquinhos, t'es capitaine du PSG, t'es élu chaque année parce que c'est une désignation capitaine du PSG. T'es le symbole depuis le début de l'ère Qatari. T'es arrivé à 19 ans, t'en as 31 aujourd'hui. T'es en contrat jusqu'en 2028. Est-ce que tu veux terminer ta carrière à Paris? Est-ce que tu veux être l'homme d'un club comme ça et aller jusqu'au bout avec le Paris Saint-Germain?
Franchement, je dis pas non. Tu vois, et on sait qu'être toujours en haut niveau jusqu'à la fin de ta carrière, parce que si tu es au PSG, tu dois être en haut niveau et tu dois être bon. La concurrence, elle est là. Il y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui poussent et ils volent leur place. Et toi, tu dois continuer à être bon et être bon jusqu'à 38, 37, je sais pas quand je vais arrêter ma carrière, je veux jouer encore longtemps. Ouais. Le plus possible, je pense que je vais tout donner pour ces couleurs-là. Moi, j'ai 31 ans, j'ai accompli plein d'objectifs ici, plein d'objectifs de ma carrière. J'ai pas envie d'aller chercher des objectifs ailleurs tant que je me sens bien, content, aimé. Tu vois, que je sens que j'ai ma place encore dans l'équipe, que le président il est content avec mes performances, le coach aussi, parce que c'est lui qui est le boss de l'équipe. Et en tant que ça me plaît, en tant que je suis content et qu'eux ils sont aussi contents avec mes performances, pourquoi pas, je vais tout donner pour que je puisse rester le plus longtemps possible ici.
En tout cas, on parle d'évolution, de changement de stratégie aussi, de poids dans le vestiaire, parce que quand t'es arrivé à 18 ans, forcément t'apprends des autres, des plus anciens. Cette transmission, ils l'ont bien faite avec toi, la preuve. Est-ce que cette transmission elle existe toujours avec la nouvelle génération? Parce que là t'as des gamins de 16 ans, alors pour l'instant t'es un grand frère, mais si tu restes encore quelques années, tu pourras être leur papa en fait, parce qu'il y aura 20 ans d'écart.
Il y en a, ils ont la moitié de mon âge déjà dans le vestiaire.
C'est pour ça. Donc, est-ce que ça se passe bien? Parce qu'on parle souvent de ces générations qui manquent un petit peu de respect avec les anciens et tout ça. Toi, tu as ce rôle-là ici. Ouais. Est-ce que ça se passe bien avec tous ces jeunes?
Très bien. Franchement, le campus qu'on a ici, c'est pas pour rien. Les gamins, ils arrivent très bien éduqués. Et pas que comme homme comme personne, mais aussi professionnellement. Et les gamins, ils travaillent très bien, ils font toujours les travaux en hors de terrain, les récupérations, et de plus en plus, je vois comment l'éducation sportive, elle est très, très importante ici dans au campus. Et ouais, comme j'ai dit, ils ont à moitié de mon âge. Je vois Boli arriver, tu vois ça. C'est un gamin qui a 16 ans, moi j'ai 31.
Boli, et... ouais, le petit Boli, ouais, t'as le droit. Ouais.
Mais pour parler de ce campus et tout ça, on a quand même senti avec l'arrivée de Luis Enrique, et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir ton retour là-dessus, que le club avait changé sa stratégie. Déjà, ils l'ont dit en termes de politique sportive, mais surtout en termes d'exigence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, parce que vous avez eu des très bons résultats avant. Ouais. Mais j'ai l'impression que là, on travaille d'autant plus depuis l'arrivée de Luis Enrique et cette arrivée au campus.
Ouais, je pense que lui, il a eu des expériences ailleurs, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, il a gagné. Et je pense que voilà, c'est pour ça que lui, qui connaissait le schéma, tu vois, pour. Même si on gagnait pas, il savait qu'on pouvait arriver très proche d'une victoire et d'accomplir nos objectifs. Et c'est comme ça, c'est avec l'exigence, c'est avec, tu vois, avec cette philosophie de faire toujours son mieux, même quand t'es jeune, quand t'es le plus expérimenté. Lui, là, je sais pas, c'est pas un numéro important pour lui, c'est pas un souci. Tant qu'il t'es performant, tant qu'il t'es exigeant et tant qu'il y a l'entraînement, tu te donnes à fond et à chaque fois que t'as l'opportunité de rentrer sous le terrain, tu vas te donner à fond. Mmh. Et c'est comme ça qu'il lui pense, peu importe si c'est un gamin de 16 ans ou un gars des 30 piges. Ouais, je pense que lui, voilà, tant qu'il y a cette exigence, et pour lui, ça change rien. Je pense que tout le monde au PSG aujourd'hui, il y a cette philosophie, cette mentalité.
Ça a changé, ça, Marquis, par rapport aux autres entraîneurs. Ça ne veut pas dire que les autres faisaient pas leur boulot. Mais est-ce que cette exigence-là, vous l'avez d'autant plus avec Luis Enrique qu'avec les autres qui sont passés? Parce que tu en as connu, des entraîneurs.
Ouais, j'ai connu. Je pense que chaque entraîneur, il a un peu sa philosophie, sa manière de jouer, de penser, d'analyser les choses. Luis Enrique, il a cette petite chose en plus. Mm-hmm. C'est un entraîneur vraiment très exigeant à chaque jour.
C'est le plus grand que tu aies connu ici? Le meilleur?
Je peux pas te dire le meilleur et le pire, tu vois, c'est ça.
Tu peux pas dire de négatif parce que sinon tu vas plus jouer.
Non, mais c'est. Alors, voilà,
et puis tu peux pas dire de négatif d'Ancelotti qui est son sélectionneur
oui,
aujourd'hui.
Aussi. Ouais, on va dire qu'Ancelotti et Luis Enrique, c'est les deux meilleurs, quoi.
Les deux actuels.
Voilà. Non, mais ce qui nous intéresse aussi, on rappelle Marquinhos, invité exceptionnel de Rotten sans flamme, légende du PSG, 500 matchs avec Paris, un record, bien évidemment. On est au lendemain de la victoire face
incroyable,
à Tottenham.
500 matchs
incroyables. Ouais. Ce qui est dur, Marquinhos, pour vous, c'est que c'est la saison d'après. Vous avez fait une saison historique, vous avez remporté la Ligue des Champions, vous êtes allé en finale de la Coupe du Monde des clubs, vous étiez imbattable avec un niveau de jeu et un niveau de performance hallucinant. Comment digérer ces exploits? Toi, tu étais au début de l'aventure, donc tu as vécu ce truc aussi. Comment se remettre en question, repartir au travail? Il y a des soucis de blessures dans l'effectif. Est-ce que ça fait partie de ton rôle de capitaine, de remobiliser tout le monde et de faire en sorte qu'on reste performant et qu'on ait toujours cette envie d'aller chercher les trophées? Vous le dites dans vos discours, mais comment tu fais, toi, au quotidien, pour remobiliser tout le monde
tout
comme ça?
Ouais, ça fait partie du rôle, mais... Ouais, je pense que c'est toujours plus difficile de rebondir dans une défaite, tu vois, dans une saison qui on a pas réussi tous les objectifs, qui une saison qu'on a quand même gagné des choses importantes, on avait tout gagné.
C'était pas dur là, de repartir au combat, à l'entraînement après
c'était
une saison.
C'était dur de partir parce que la saison elle était longue. Ouais. On n'a pas eu la bonne préparation, la préparation normale d'une saison comme ça est très exigeante. On a eu tout de suite de partir contre Tottenham deux trois jours après des entraînements, d'aller chercher un trophée déjà. C'était un match exigeant. Ouais. Tu vois, peut-être ça a été dur de rebondir à cause de ça. Mais je pense que l'ambiance, la motivation, et voilà, il y a quand même des gamins, tu vois, des gamins qui, des 18, des 17, des 20, des 23, les plus expérimentés. Moi, 31, il y en a toujours.
Ils sont jeunes, malgré tout, hein.
Ouais, ils ont toujours la faim des victoires, de jouer, de s'entraîner, de revenir à l'entraînement et de jouer des matchs. Et pour moi, en tant que capitaine, ouais, je dois avoir cette sensibilité de savoir aussi les motiver quand il faut, mais aussi de les garder un peu quand ils sont trop excités. Tu vois, ça m'a montré un peu Luis Enrique aussi, que je dois comprendre un peu le vestiaire. Des fois, le vestiaire, il est un peu sur pression et je dois calmer les joueurs et la température dans le vestiaire. Et quand je vois que le vestiaire, il est un peu mort, je dois aussi pousser pour qu'on puisse avoir plus d'efforts
si
et plus d'énergie.
Si ça s'endort, tu mets une piqûre de rappel pour réveiller tout le monde. Quoi.
C'est un peu mon rôle. Mais je pense que la saison, elle était plus difficile à cause de la préparation qu'on a manqué qu'il y a d'autres choses.
Parce que nous, on fait beaucoup de débats là-dessus. C'est normal, nous, les anciens joueurs, on n'a pas connu cette période-là où il y a autant de compétitions. Tu vas jusqu'au bout, en plus, dans toutes les compétitions, que tu as très peu de vacances et t'enchaînes direct par un match important à la finale de la Supercoupe. Toi, comment tu ressens ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de blessures derrière. Est-ce que c'est par rapport à ce manque de coupure, ce manque de repos ou...
Tu t'es blessé au quadri d'ailleurs.
Ouais. Oui, toi tu t'es blessé gravement au quadri, Ousmane, Désiré, puis il y en a eu d'autres,
Hakimi, hein.
Tout le monde, Joao Neves, tout le monde s'est blessé. Toi, comment tu juges ça? Est-ce que tu trouves que, en effet, enchaîner comme ça les compètes, c'est pas forcément un bon signe pour la suite?
Ouais. C'est difficile à dire parce que nous, en tant que compétiteurs, on veut toujours être performant
toujours jouer, ouais.
Et toujours
ouais.
jouer, toujours arriver jusqu'au bout dans toutes les compétitions qu'on puisse jouer, tant qu'on gagne, qu'on a des trophées à aller chercher, on veut toujours y aller. Mais après, t'as le poids dans la balance qu'elle est un peu difficile, tu vois, quand tu joues autant de matchs et t'as pas aussi de récupération, t'as pas la préparation qu'il faut derrière pour rebondir dans une autre saison. Nous, on a un coach, il est intelligent pour essayer de gérer ça,
ouais,
et
de varier
balancer,
les temps de jeu, ouais.
De temps de jeu, mais même comme ça, malgré ça, tu vois, il y a encore des soucis.
Il y a une peur chez vous, malgré tout. Enfin, est-ce que vous y pensez, vous qui avez fait toute la saison, la peur de la blessure, de la rechute aussi,
non.
C'est arrivé
non.
à Ousmane, par exemple.
Non.
Vous y pensez pas quand vous êtes aligné comme ça?
Non. C'est surtout quand tu reviens de blessure, t'as un peu d'appréhension,
ah oui.
Que c'est normal, en tant que tu joues pas 2-3 matchs et t'as pas enlevé toute cette appréhension, tant que t'as pas repris le rythme et tout. Mais nous, une fois qu'on rentre sur le terrain, qu'on fait des entraînements, qu'on est dans le match, l'adrénaline elle monte, ça s'enlève.
Est-ce que t'as cette frustration, en revanche, de te dire, depuis le début de saison, malheureusement, on n'a toujours pas eu l'équipe type, on peut pas déployer le jeu qu'on avait la saison dernière? On est toujours dans les ajustements, de la gestion d'effectifs, la gestion des temps de jeu. Est-ce que toi, en tant que capitaine, t'es frustré?
Tu sens l'équipe.
On n'est pas à 100%, quoi.
Tu sens l'équipe moins forte pour l'instant que l'année dernière.
Mais après, l'histoire de foot et dans la dynamique de foot, elle est comme ça. Tu vois, c'est comme ça qu'on voit des talents arriver, qu'on voit des jeunes prendre l'opportunité qu'ils font et font le nom après d'ailleurs. Et le foot, il est comme ça. T'as des saisons. C'est très difficile de rester dans une saison linéaire. Toute l'équipe. Il y a rien. Il y a pas de changement. Il y a pas de chutes dans les blessures. Et c'est normal. Et c'est là où le coach il fait confiance à tout le monde. Tu vois, hier, on voit le petit Quentin qui est un gamin qui commence un match comme ça. Et lui, il fait confiance à tout le monde. Il n'a pas peur de faire confiance. Et c'est des gamins comme ça qui prennent l'opportunité et profitent le moment pour se faire montrer aussi.
C'est pour ça que moi, je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes, un peu plus que prévu, parce qu'il y a beaucoup de blessures de joueurs cadres. Mais et il y a eu beaucoup de critiques sur le recrutement, en disant, ils n'ont pas recruté assez, ils n'ont pas ceci. Mais c'était une façon de faire confiance aux jeunes. Et pour parler de recrutement, il y a quand même deux joueurs importants qui sont arrivés, où le club a investi, c'est-à-dire Zabarnier et Lucas Chevalier. Comment tu juges leur adaptation, toi?
Ouais, je pense que c'est pas aussi simple et facile d'arriver dans une équipe qui a déjà gagné. Était champion de tout. Mais eux, ils ont fait une très belle adaptation. Je pense que nous, en tant qu'équipe, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent aussi faire un bon travail. Et voilà, je pense que de plus en plus, ils vont comprendre c'est quoi Paris, c'est quoi d'être joueur de Paris Saint-Germain, le poids qu'il est. Tant qu'ils ont été recrutés par le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils sûrement ils ont des énormes capacités, des qualités pour. Et nous, on le fait confiance. Je pense que même moi, ça faisait des années ici, j'ai eu des difficultés dans les matchs, dans les moments. C'est normal que les joueurs, ils ont des moments difficiles, mais ils ont la capacité pour rebondir tout.
C'est peut-être un peu plus particulier pour Lucas Chevalier, qui est français, qui remplace une légende, Donnarumma, qui a été très bon sur la fin de saison en Ligue des Champions, qui a un poste particulier, le poste de gardien de but. Il y a beaucoup de pression pour lui. Comment toi, tu juges son début de saison? Et est-ce que c'est ton rôle de capitaine aussi de l'aider à s'intégrer, de le rassurer et de le mettre en confiance, parce qu'il sera décisif pour la suite de la saison?
Toujours. Je pense que le rôle des gardiens, il est toujours très important. Comme j'ai dit, c'est toujours difficile de rentrer dans une équipe qui était champion avec un gardien qui a été très important dans la saison, qui a fait des arrêts importants. C'est pas aussi simple de rentrer et faire déjà des matchs de haut niveau. Lui, c'est encore, on n'oublie pas, c'est encore un jeune gardien, tu vois, qui a beaucoup de marges de progression. Et déjà, il montre ses capacités. Il a montré à Lille, il a montré en équipe de France. Il essaie toujours de montrer au Paris Saint-Germain. Et nous, en tant que capitaine, en tant que joueur depuis que je suis là, on essaye de dire toujours qu'il faut pas s'en douter de ses capacités. Comme j'ai dit avant, moi j'ai eu plein de saisons où j'ai eu des difficultés, j'ai fait des erreurs des moments difficiles. Aussi, ouais. Tout le monde c'est là où tu dois être costaud et être vraiment exigeant avec toi-même pour toujours chercher de s'améliorer. Voilà, parce qu'une fois qu'il t'est bien, une fois qu'il t'a montré tes capacités à Paris, tu peux vraiment faire des belles choses dans ta carrière, tu vois, arriver en équipe de France, être titulaire d'équipe de France, nommé comme meilleur gardien du monde. C'est pour ça que nous on va être là pour l'aider.
C'est
pour
là que ton rôle est important, Marquis, en fait, parce que ton rôle a évolué là-dessus. Et c'est vrai que t'es totalement dans la transmission, dans l'intégration, l'adaptation de ces joueurs-là. Et j'imagine qu'avec tout ce que tu nous dis sur Lucas ou même Zabarni, au quotidien, tu travailles sur les entraînements. Ça te rassure quand tu les vois comme ça s'intégrer pour que demain ils soient très performants et réguliers, constants au haut niveau.
Ouais, ça me rassure. C'est différent quand tu les vois à l'entraînement et quand tu vois au match. À l'entraînement, tu peux voir beaucoup plus de ce qu'ils peuvent apporter. Et on le voit au quotidien des fois. Et voilà, ça me rassure vraiment les qualités qu'ils ont, surtout avec la mentalité qu'ils ont aussi, la mentalité de continuer à travailler, de toujours bosser, de toujours essayer de donner son maximum. Même si nous, en tant que joueurs, on a envie des moments difficiles, et le lendemain, il faut venir ici, continuer à vraiment bosser pour sortir des moments de difficultés. Et je pense que, voilà, comme je dis, je suis vraiment content avec l'équipe qu'on a, et les recrutements qu'on a fait.
Vous êtes doublé en Ligue des Champions, vous êtes le doublé. Tu veux gagner la Ligue des Champions une deuxième année d'affilée?
Ah oui. C'est ça le discours dans le vestiaire. Si on veut vraiment marquer l'histoire.
On n'est pas venu les mains vides. Hein. 500 matchs au PSG, on s'est dit on va lui faire un petit cadeau. On t'a fait une surprise. Un de tes amis, ancien partenaire au Paris Saint-Germain,
je sais pas si tu vas le reconnaître,
coéquipier en sélection, a voulu te laisser un message. Écoute.
Marquis, mon coach, félicitations, mon gars. 500 matchs, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est très content pour toi parce que tu mérites beaucoup. Cette marque-là, tu fais part de ce projet. De toutes les façons, tu as été là quand ça a été difficile, tu as souffert, mais tu n'as jamais se caché, tu as mis la tête tous les jours. Tu as été là dans le moment fantastique, incroyable. Je t'admire beaucoup. J'espère que tu vas jouer plus. 500 matchs, pourquoi pas, que tu veux jouer. Le vieux, c'est moi, c'est pas toi. En tout cas, félicitations, parce que je connais ta histoire depuis que tu es petit. Je connais ton cœur, comme tu es humble, comme tu restes toujours dans l'humilité. Je connais ta famille, tu mérites. Je suis loin, mais tu es toujours dans mon cœur. D'accord, mon gars? Dieu te bénisse, profite bien, allez Paris, toujours.
David Luiz, qui a marqué hier contre Monaco avec
la Paris. Reconnu, David. Cypriote.
C'est en français, il est bien. Hein.
Ouais, il est bien en français, ouais, encore. Ouais,
il parle bien français.
Bon, on lui avait écrit hein, quand même. Non, je plaisante. Non, il parle bien.
Il parle bien.
Presque aussi bien que toi.
Un hommage sympa. Ça nous fait une transition toute trouvée parce que l'événement de la saison pour toi aussi, c'est la Coupe du Monde qui va arriver avec le Brésil. Le Brésil, grande nation du foot, mais dans une période un peu particulière. C'est vrai qu'on se demande un peu où vous allez. C'est une génération un peu moins forte que en tout cas en termes de talent offensif que les saisons précédentes. Quel est l'objectif du Brésil? Tu veux être champion du monde? Vous avez les capacités d'être champion du monde, tu penses, aux États-Unis?
Bon, on a toujours les plus grandes ambitions. On est voilà une nation qui est très exigeante avec nous-mêmes, avec les joueurs, comme ici à Paris, au Paris Saint-Germain. On sait que le chemin il est long, il est très dur à arriver, très difficile. Moi, j'ai joué déjà deux coupes du monde, je vois comment c'est très dur et très difficile. Mais nous, on veut, c'est notre rêve, notre objectif. On va essayer de tout donner, chercher cette coupe.
Tu te sens, vous sentez que cette équipe, elle progresse avec l'arrivée d'Ancelotti. Moi, je te le dis, après, c'est que mon avis, je suis pas comme toi au quotidien, mais j'ai l'impression que, en effet, le Brésil d'antan, Brésil d'avant, avec beaucoup de grands joueurs dans le secteur offensif, ça s'est un peu perdu. Tu vois, on parle beaucoup du retour de Neymar, et ça, c'est un gros point d'interrogation, mais sur l'ensemble, dans le secteur offensif, je trouve que vous avez moins le le talent que d'habitude. Et tu sais que les grandes compètes, elles se gagnent parce que t'es solide aussi à travers toi et les défenseurs et un bon gardien, mais surtout avec des attaquants qui ont de la magie dans les pieds. Au Brésil, il y en a toujours eu. Là, il y en a un peu moins quand même, non?
Ouais, je pense que le foot il a changé un peu. Ouais. Tu vois, le foot il est beaucoup plus physique. Il a moins d'espace, il a moins de temps. Et c'est dur d'avoir une génération comme celle des précédents, tu vois. C'est dur, notre génération, nous, il y avait Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo.
Ah, le Brésil a toujours fait rêver là-dessus, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Et c'est pour ça qu'on pense que maintenant, il n'y a pas. Mais si on regarde les noms, quand même, il y a des noms qui sont très forts dans notre sélection. Il y a Vini, il y a Rafinha, il y a Estevão qui arrive, le petit jeune de Chelsea, Rodrigo. Tu vois, on a des noms qui font rêver toujours en club.
Est-ce que vous avez besoin de Neymar? C'est ça la question.
Toujours.
Là, il est out jusqu'en 2020.
Toujours. Oui, toujours. Moi, je suis.
Tu veux qu'il soit avec vous à la Coupe du Monde?
Moi, c'est un grand ami. Lui, c'est un talent qui. Ouais, mais voilà, ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend de comment il est, s'il est bien, s'il est en forme, s'il a physiquement, il a repris ses remarques. Voilà, il vit un moment difficile à Santos avec l'équipe qu'il a, avec les blessures. J'espère qu'il va reprendre sa forme. S'il est dans sa forme et physiquement il est bien, pourquoi pas? Et s'il montre qu'il a j'espère bien qu'il puisse revenir en forme et qu'il puisse venir en Coupe du Monde.
Et on le souhaite en tout cas pour la Coupe du Monde, pour le Brésil, parce que voilà, merci beaucoup. En tout cas, Neymar reste un joueur incroyable. Donc moi, je suis amoureux de Neymar aussi, donc j'ai envie de le voir avec vous. Ouais. J'espère, mais déjà te voir toi au Paris Saint-Germain avec le Brésil, encore beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. En
la
tout
plus
cas.
Grande légende du Paris Saint-Germain. La 500 plus... matchs avec le PSG, l'homme qui a soulevé la Ligue des Champions, Jérôme.
Ah Marquinhos. Ouais, ça nous a fait kiffer les vrais Parisiens qu'on est. Hein, Benoît, non, que je suis. Franchement, c'était génial et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. En tout cas, merci pour tout ce que tu apportes.
Merci
pour cet entretien.
Merci.
On te souhaite tout le meilleur, Marquis.
Bonne saison, Marquis. Merci
à vous. Ouais.
L'interview de Marquinhos à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, la chaîne Rotem sans flamme, sur les applis d'RMC. Dans un instant, la suite des meilleurs moments avec le procès des équipes de Ligue 1 qui refusent le jeu face au Paris Saint-Germain. On est là jusqu'à 20h. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotem sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotem sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Retour de toute l'équipe lundi 18h. Jérôme Rotem, la Dream Team, pour la deuxième partie de saison qui s'annonce complètement folle. Dans un quart d'heure, à 18h45, allô Jérôme, retour sur l'interview d'Esteban Le Poll au lendemain de son triplé avec Rennes face à Strasbourg. On démarre tout de suite par le procès des équipes de Ligue 1 qui refusent le jeu face au Paris Saint-Germain.
RMC, Rotem sans flamme.
La Ligue des Champions, les équipes, ils jouent dans les yeux avec nous. Et ici, ils ont pas seulement défendu. Et le match, c'est plus difficile comme ça. Ils ont 11 gardiens.
Le procès de Rotem sans flamme.
L'exaspération de Gonçalo Ramos, le sauveur du PSG, samedi face à Nice. Victoire 1-0 dans les toutes dernières secondes. Nice a failli réussir son pari, arracher un point en restant arc-bouté devant son but. 23% de possession de balle, seulement 2 tirs cadrés. 4 fois moins de passes réussies que le Paris Saint-Germain. Tout ça face à une équipe parisienne qui était un peu moins inspirée, un peu moins impliquée qu'en Ligue des Champions. On en a parlé à 18h. On fait donc le procès des équipes de Ligue 1 qui refusent de jouer face au PSG. Le procureur, c'est monsieur Jérôme Rotem. Bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats, maître Dimeco et maître Dugarry. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et le verdict sera rendu par un supporter parisien. C'est Djibril qui nous rejoint au 32-16. Salut Djibril.
Bonsoir à tous, supporter légendaire du Paris Saint-Germain.
Ah bah voilà, légendaire. Donc on espère que tu vas pas trop avantager Jérôme Rotem. Allons-y pour ce procès.
Il y a deux légendes sur le plateau, si j'ai bien compris.
C'est vrai. Supporter légendaire, un joueur légendaire. Ah, exactement. Ouais. Jérôme, qu'est-ce que tu reproches alors au club qui met le bus face au Paris Saint-Germain?
Et en fait, il y a différentes postures à avoir. Du moins, à mon avis, il peut varier suivant les moyens de certains clubs. Mais même avec des moyens limités, et très limité, on le voit, les finances de certains clubs, et là je parle pour Angers qui est venu ici et on a vu ce qu'ils avaient fait à Marseille dernièrement en obtenant un match nul, en ouvrant, en jouant, en prenant des risques, et pourtant ils n'ont pas les meilleurs joueurs du championnat dans leur effectif. Je me dis qu'il y a des façons de jouer au football, et la plus facile façon de jouer au football ou de mettre un dispositif en place, c'est de mettre un dispositif défensif.
avec deux blocs bien regroupés, avec des attaquants qui viennent serrer sur les milieux de terrain.
5-4-1, quoi.
Voilà, et on reste à 30 mètres de notre but. Et ça, on a assez joué au football. Et je te dis, il n'y a pas que football professionnel. Le football amateur, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour un entraîneur, et je suis passé par là parce que j'ai passé certains diplômes d'entraîneur, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et la compréhension des joueurs, t'en fais pas. Un bloc défensif, c'est facile. Après, l'animation offensive, quand tu récupères le ballon, des circuits de passe, comment on attaque, comment on pose des problèmes à l'adversaire, là, c'est plus compliqué à mettre en place. Donc la facilité, en fait, c'est de se dire, tu regardes le Paris Saint-Germain, ah, bien sûr qu'il n'y a aucune équipe en Ligue 1, mais même en Europe, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent regarder droit dans les yeux le Paris Saint-Germain en disant « Nous, on va t'imposer ce football-là et on va essayer de jouer avec nos armes. » Ok, bien sûr que tu es obligé de faire en fonction d'un Paris Saint-Germain très fort. Il n'y a pas de problème. Mais, et encore plus quand tu viens au Parc des Princes. Mais il y a deux façons de voir les choses. Moi, je suis entraîneur de Ligue 1. Aujourd'hui, je me dis que, on en a parlé dans le premier sujet, le Paris Saint-Germain est en difficulté en championnat. Joue sur courant alternatif, c'est une mi-temps de bien, une mi-temps mauvaise, voire deux mi-temps très moyenne. C'est le cas du PSG en Ligue 1 aujourd'hui. En Ligue 1, le PSG a pas été irrésistible comme ils l'ont été l'année dernière, ou peut-être sur une mi-temps, mais ils avaient plié le match à Toulouse en début d'année. D'accord ? Là où ils avaient mis un gros rythme, grosse pression, gros pressing, et là l'adversaire il est complètement étouffé, et là tu te retrouves le bec dans l'eau, t'as prévu de mettre un dispositif en place avec le ballon qui peut poser des problèmes à l'adversaire, tu veux déjouer le gros pressing parisien, t'y arrives pas, et ben là tu défends. Ok, il n'y a pas de souci. Mais là, ce que nous a fait Nice, par exemple, où d'entrée, déjà, tu savais que avant le coup, sans, tu as juste regardé la composition d'équipe de Nice, ils virent tous ces joueurs techniques. Ils mettent du muscle, du physique, des mecs tous regroupés derrière. Et au bout de deux minutes, tu sais la copie que va nous montrer Nice, c'est-à-dire on ne dépasse pas nos 30 mètres, on défend, on met des brins, on est agressif, voilà. Et puis on va essayer de prier que notre gardien, et ce qui a été le cas, Diouf, fasse un excellent match. Et par la petite porte, on arrive à prendre un point. Ils ont failli jusqu'à la dernière seconde, d'accord ? Mais tant pis, j'ai envie de te dire. Mais quand tu vois les moyens de Nice, parce que ce n'est pas une petite équipe, Nice.
Quatrième l'an dernier.
D'accord ? Qu'on nous vend... Francaise, et là je m'attaque à Francaise, mais je peux m'attaquer à d'autres qui l'ont fait, mais là sur le match de samedi, je m'attaque à Francaise, où tout le monde nous dit c'est un excellent entraîneur, c'est ceci, cela, par rapport à ce qu'il a fait à Lens, par rapport à ce qu'il a fait par moment à Nice, mais quand même, tu payes un entraîneur très cher, parce que pour moi il est très très bien payé, Francaise, mais il le mérite certainement, et que toi t'es le propriétaire, tu payes Francaise, que t'as prolongé en plus, pour qu'il te ponde ça. Mais en fait, t'as pas besoin. Vas-y, toi, le propriétaire sur le banc, pour dire à tes joueurs, défendez à 30 mètres, et quand on récupère le ballon, on envoie des minas à droite et à gauche, et puis on leur redonne la balle, mais c'est pas grave, nous, on veut pas du ballon aujourd'hui. Mais je trouve ça terrible dans la façon de préparer un match et d'essayer de poser des problèmes à ce petit Paris Saint-Germain, surtout en première mi-temps.
Bon.
Et donc, moi, je me dis que, en gros, ça montre beaucoup de limites et de compétences des entraîneurs de Ligue 1 qui proposent ça contre le PSG. Je te dis pas que tu dois gagner absolument
Strasbourg
en jouant.
Strasbourg a joué au Parc, par exemple.
Mais Strasbourg a joué, mais il y a d'autres exemples. Je te dis l'exemple d'Angers, que j'ai vu au Parc des Princes, qui a pas été grandiose au Parc des Princes, mais ils ont essayé de faire, parce que Dujeu essaye, l'entraîneur d'Angers essaye de mettre des choses en place. Je vais pas lui reprocher ça, ce qu'il a fait à Marseille en première mi-temps. Face à ce Marseille-là au stade Vélodrome devant 60 000 personnes, je dis bravo. Et en plus de ça, grâce à ça, ils ont pris un point. Allez. Donc, moi, ça montre trop de limites, ces blocs bas, là, on est tous derrière, et nous expliquer que c'est les blessures, c'est ceci, la fatigue, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste la facilité.
Parole à la défense, Maître Dugarry.
Écoute, je suis choqué des propos de Monsieur Rotten qui m'explique que Strasbourg a été extraordinaire face à Paris. Ouais, ils viennent d'en prendre 4 face à Rennes. Donc, écoute, ils ont bien fait d'être joueurs. Vraiment, ils ont vraiment monté un accomplissement. Ils ont vraiment montré qu'ils avaient atteint vraiment un sacré niveau et tout. Vraiment super. Vraiment top niveau. Déjà accusé Francaise. Alors maintenant, Francaise est devenu un mauvais entraîneur parce qu'il a joué bas contre le Paris Saint-Germain. Je sais pas où était mon collègue Jérôme Rotten. Il devait être dans une grotte ces derniers mois. Il n'a pas dû se rendre compte que le Paris Saint-Germain faisait peur et terrorisait l'Europe entière du football. Voilà, il a malmené tout le monde. Voilà, il a battu tout le monde. Il a mis des raclées à tout le monde. Moi, je peux comprendre que quand tu arrives au Parc des Princes, eh bien, tu sois un peu moins ambitieux. Je trouve que cette équipe de Nice, voilà, elle a enfin réussi à enchaîner quelques victoires d'affilée. Elle est arrivée avec un petit peu de confiance. Elle a pas voulu, voilà, déjouer forcément et partir la fleur au fusil et se prendre peut-être un petit peu trop arrogant, parce que c'est vrai que les résultats ont été plutôt intéressants et encourageants. Je pense qu'ils ont voulu garder un petit peu plus de maîtrise. Ils ont voulu mettre beaucoup plus d'impact, d'agressivité, parce que ça, je pense que c'est une solution quand tu joues face à ce Paris Saint-Germain qui manque peut-être un peu de rythme, un petit peu de vitesse. Les agresser, être un petit peu plus virulent. Là, on leur mettre un petit peu plus de coups, comme a réussi à le faire l'Olympique de Marseille. Voilà, alors quand ils sont en pleine possession de leurs moyens physiques et techniques, c'est peut-être plus difficile de les attraper. Mais là, je trouvais que l'idée, elle était plutôt intéressante face à ce petit Paris Saint-Germain de jouer un bloc bas. Après, je suis persuadé que la volonté de Franquès, c'est pas non plus de ne pas ressortir quand c'est possible. Après, si le joueur en sont incapables et montre certaines limites, je suis pas persuadé qu'il faille tirer un enseignement comme le fait Jérôme en disant que voilà, je suis déçu du niveau. Il est trop payé, faut pas le payer parce qu'il n'est pas capable d'être offensif au Parc des Princes face à ce Paris Saint-Germain. Sincèrement, je trouve ça totalement déplacé. Il y aura d'autres équipes qui vont jouer bas face à ce Paris Saint-Germain là. Elles ont peur, elles s'en cachent pas. Voilà, elles essaient de faire en fonction des moyens du bord. Une nouvelle fois, j'ai pas envie de rappeler les budgets d'une équipe et de l'autre. Quand je vois le budget de Nice et quand je vois le budget du Paris Saint-Germain, quand je vois la prestation des deux équipes, écoute, je suis pas persuadé que le budget du Paris Saint-Germain à 850 millions, il était justifié face à ce l'OGC Nice là.
Bon, l'autre avocat, maître Dimitro. Ouais.
Alors, juste pour compléter ce qu'a dit Duga, parce que Jérôme a considéré presque que Nice était une grande Europe bientôt. Mais j'ai regardé, je crois qu'ils ont perdu depuis le début de la saison avec les matchs de qualif en Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe et le championnat. Je crois qu'ils ont perdu 10 matchs. Vérifie ça, mais je crois qu'on est à 10 matchs de perdu.
Ils ont bien fini 4e l'année dernière, non ?
Oui, non, mais là, on parle de l'année dernière,
week-end. C'est une équipe qui joue la Coupe d'Europe.
Et l'équipe qui a des ambitions.
Non, mais moi, je veux savoir si on parle du Nice du moment qui est en grande, si on parle du Nice du moment qui est en grande difficulté, ou si on parle de celui de l'année dernière. Moi, je pense que cette équipe-là, elle est venue dans ses petits souliers, au parc, avec peu de certitude, avec beaucoup de défaites depuis le début de la saison, et il n'y a pas qu'une seule manière de jouer.
Trois
victoires à nul sur les 4 derniers matchs pour Nice.
Oui, non, mais je te parle depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, je te regarde bien, ils ont perdu 10 matchs.
9 matchs, je crois.
Avec la Ligue Europa.
Comme il faut. Ah ouais, avec les qualifs de Ligue pour la. Donc tu regardes, tu verras, ça fait 10 matchs perdus avec celui de samedi, de samedi ou de dimanche là. Du coup. Samedi. Donc c'est quand même une équipe qui a pas beaucoup de certitudes, qui est capable de perdre contre n'importe qui. Et justement, ils se sont refait un petit peu la cerise ces derniers temps. Et comme l'a dit Duga, ils viennent au parc en essayant de faire le hold-up. Écoute. C'est bien sûr que c'est pas agréable à voir, et quand tu es supporter du PSG, tu as envie que les équipes se livrent, mais quand les équipes se livrent, vous leur mettez les branlées aussi.
C'est pas vrai, pas depuis le début de saison, Eric.
Mais oui, mais pas depuis le début de la saison. Mais le problème, c'est que le PSG a une image, c'est la meilleure équipe d'Europe du moment. Donc les équipes, elles s'adaptent à ça et elles essaient de jouer avec leurs armes.
Mais même Angers, Auxerre, ils ont fait 10 fois plus que Nice.
Ils jouent jamais comme ça. Franquès en plus.
Mais justement, c'est pour ça que c'est choquant comme ça.
C'est là où j'ai mis les passifs.
Il est peut-être fatigué.
Avec
qui a peur, si vous... est un peu heureux.
Avant, si vous vous en souvenez bien, toutes les équipes mettaient le bus contre les grosses équipes. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, quand il y en a une qui le fait, on va pas lui tomber dessus de suite.
Alors, Djibril va rendre le verdict. Djibril, qui remporte ce procès?
Non, franchement.
Alors, je suis estomaqué par les propos de monsieur Christophe Dugarry qui défonce monsieur Deserbi par rapport à son système de jeu et la qualité de jeu, et qui vient défendre monsieur qui est venu faire des travaux au Parc des Princes.
Incompréhensible.
Sauf un match
aussi,
de foot.
Je suis choqué.
C'est 240 millions de l'OM, le budget. Ils n'ont pas les mêmes joueurs à l'OM, c'est pas le même objectif, c'est pas la même ambition.
Il y a deux poids, deux mesures.
C'est pas la même exigence.
Je suis d'accord, mais Suiken, il y a eu un Barça Elche.
Ils ont rien, Nice.
Qui a essayé de jouer. Il y a eu un Real Valence. Valence qui était 18e qui a essayé de jouer aussi.
Ils ont pris une bonne. Angers, pareil.
Ils ont pris une bonne. 4-0.
Non, mais moi, je veux savoir le résultat parce que c'est les mots d'essayer.
Djibril, tu peux me dire juste qui a gagné le procès?
Qui a gagné?
Mais il n'y a pas photo, c'est monsieur Jérôme Rotel, le meilleur passeur de la Ligue 1.
Ah ouais, bon, oula, il y avait de l'objectivité.
Bravo, Jérôme. Bravo, quel
Djibril pour le
verdict. On est très objectif dans l'émission. Merci.
Un procès retrouvé sur la chaîne podcast de Rotten sans flamme dans un instant. Allô Jérôme, Esteban Le Poll, auteur d'un triplé avec Rennes face à Strasbourg. Le lendemain, il était dans Rotten sans flamme. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Retour de Jérôme et de toute l'équipe lundi, 18h-20h du lundi au vendredi pour toute l'actu foot et la deuxième partie de saison qui sera lancée dans un quart d'heure. L'interview de Sébastien Pocognoli, le coach de Monaco, émission du 17 novembre avec Christophe Dugarry et Eric Dimeco. Mais tout de suite, c'est le Allô Jérôme. On revient sur l'interview d'Esteban Le Poll après son triplé avec Rennes face à Strasbourg.
RMC, Rotten sans flamme.
Oh, Esteban Le Poll ! Esteban Le Poll ! Esteban Le Poll ! Quel avant-centre incroyable ! Première attention ! Il va s'offrir un triplé, le 4-0 pour le Stade Rennais. Incroyable match et incroyable Le Poll.
Allô Jérôme.
Esteban Le Poll, auteur d'un triplé le week-end dernier avec Rennes face à Strasbourg et donc l'invité de Rotten sans flamme dans le Allô Jérôme.
Les frissons.
Ah, c'était dingue.
Salut Esteban.
Bonsoir messieurs, bonsoir.
Salut
bonsoir.
Esteban.
Salut.
Bienvenue bonsoir. Dans Rotten sans flamme. Merci d'être là. Hein. Surtout, t'es l'homme du week-end. Donc, partagez ce sentiment avec nous. Qu'est-ce que ça fait, un premier triplé en Ligue 1 comme ça?
Bah, merci de me recevoir, c'est top. Écoutez, c'est incroyable. C'était un sentiment que j'avais pas encore connu. J'espère que ça sera pas la dernière fois. Et non, c'était incroyable. Franchement, en plus avec un scénario de match qui était parfait pour nous, qui nous a permis de nous relancer, de gagner ce match important. Donc tout allait bien.
Enfin adapté, Esteban, à Rennes. J'imagine que là, ce genre de performance, alors t'avais déjà marqué dès ton premier match à l'extérieur, mais plus des matchs à l'extérieur, t'avais marqué, c'est tes premiers buts au Roizen Park. J'imagine que dans l'adaptation, c'est quelque chose qui marque quand même.
Ouais, je l'ai dit hier, j'en avais besoin de ce match référence à domicile pour lancer aussi une série de buts à la maison. Donc c'est sûr que c'était important. Ça tombe contre le Racing encore une fois malheureusement. mais c'était bien, c'était important pour moi. Et puis on sait que c'était aussi important. Donc je le répéterai jamais assez, mais. C'est la victoire de tout le monde.
Ouais, puis Rossignol, on a vu les images, a voulu t'étrangler à la fin. Il en peut plus de toi.
Ouais, non, on a eu quelques petites affinités déjà de l'année dernière. Ouais. Où on a partagé des moments assez sympas. Donc non, c'est de bonne guerre.
Duga, est-ce que Esteban, c'est un profil que t'apprécies comme ça, un vrai neuf, un joueur d'instinct attiré par le but?
Oui, ben un joueur de profondeur, un joueur de surface. Oui, forcément. Puis la qualité de ses buts, surtout.
C'est pas que vrai neuf.
Voilà, je crois qu'il démontre qu'il a un éventail assez important, donc c'est vrai que c'est un garçon qui a un avenir. C'est vrai qu'on le compare beaucoup du côté de Rennes au Suisse à Alexander Frey, qui avait marqué énormément de buts pendant 3 ans du côté de Rennes. Et est-ce que ça a été difficile justement de Esteban de supporter le coût de ton transfert? T'as été acheté 15 millions d'euros venant du SCO d'Angers. J'imagine que ça a dû être difficile aussi pour toi à gérer mentalement le coût du transfert.
Mais ça a été une période pas facile parce que c'était tout nouveau pour moi d'être transféré avec des quand même un montant assez important. Ça a duré quelques semaines, donc non, au final ça s'est bien passé. J'ai pas eu trop d'appréhension parce que j'ai dû jouer tout de suite aussi avec Rennes, donc j'ai pas eu trop le temps de réfléchir. Et puis après, on sait que les chiffres, moi j'y prête pas trop attention parce que les chiffres, ils deviennent vite démesurés maintenant. Donc c'est des choses auxquelles je prête pas attention, mais je me suis très très vite acclimaté à ce nouveau club et je suis très content que ça se passe bien.
Eric,
cette victoire était hyper importante parce que bon, on a suivi l'actualité ces derniers temps et c'était tendu du côté de Rennes. On a même parlé peut-être que le coach, les joueurs avaient lâché le coach. La situation après ce résultat, on a l'impression aussi que il vous manquait le déclic parce que vous avez fait beaucoup de nuls, beaucoup de matchs où vous avez perdu des points sur les derniers moments là de des matchs. Et on avait vraiment l'impression qu'il vous manquait ce genre de match là, le match référence, le match qui lançait vraiment votre saison. Est-ce que ça peut être celui-là? Et raconte-nous un peu les coulisses, malgré tout, de ce qui se passe dans le vestiaire, là-bas.
Bah, très honnêtement, la semaine un peu tumultueuse qu'on a passée, c'était assez compliqué à comprendre, mais il y a beaucoup de choses qui ne nous regardent pas et qui concernent beaucoup plus les plus hauts grades du Stade Rennais. Donc nous, le seul truc qu'on voulait, c'était de gagner à Toulouse. Malheureusement, en menant 2-0, on était retombé dans nos travers et faire ce match nul. Mais voilà, le coach était là encore hier et nous, en tout cas, on voulait gagner ce match. On prête pas attention trop à ce qui se passe et on essaye de faire abstraction le plus possible parce qu'au final, on a des matchs à gagner. Et bien sûr que ce match, c'est un match référence pour nous. Va falloir qu'il nous serve pour la suite parce que ça prouve toute la qualité de notre effectif et ce qu'on est capable de faire. Pour moi, le match d'hier, c'est notre vrai niveau.
Esteban Le Poll, invité de Rotten sans flamme dans le Allo Jérôme ce soir. C'est particulier, oui, ce climat à Rennes, parce qu'on ne sait toujours pas si Habib Bey terminera la saison sur le banc du Stade Rennais, Esteban. Ta relation avec lui est également particulière, c'est lui qui te voulait absolument. Rennes a fait l'effort de te recruter parce qu'Habib Bey te voulait depuis longtemps d'ailleurs et t'avait repéré dans les divisions inférieures. Son avenir, donc, on le disait, était en suspens. On a même dit qu'il allait partir. Finalement, il est resté avec le match en semaine où vous en êtes bien sorti. Des joueurs importants ont été écartés. Comment toi, tu l'as vécu personnellement? Comment on vit un match quand on se dit le sort du coach dépend un peu de notre prestation collective et aussi de la mienne? Il faut que je sois bon pour, entre guillemets, sauver sa tête.
Vous savez, quand on aborde un match, nous, il a fait une causerie qui était très claire. Son avenir ne se joue pas sur ce match et c'était ça le dernier mot de la causerie. C'était que nous, on avait un match à jouer, qu'on allait faire du mieux possible pour apporter un résultat. Donc, je vais pas vous mentir que pendant le match, moi, j'y pense pas trop j'y pense même pas du tout parce que le niveau de la Ligue 1 est élevé. Si en plus je me permets de pas trop être concentré parce que je pense à autre chose, le match, je vais me le rendre un peu plus dur. Donc non, bien sûr qu'on était conscient de ça, mais tout le monde a été hyper concentré et c'est pour ça qu'on avait quand même fait un bon match malgré ce résultat qui n'était pas en notre faveur.
Tu sens que c'est derrière là toutes ces tensions de vestiaire et que maintenant vous inscrivez dans la durée avec votre coach.
Non, mais nous on a un vestiaire qui vit hyper bien. Il n'y a pas de souci dans ce vestiaire. Tout le monde travaille.
Non, mais Esteban, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit sur le vestiaire, sur des joueurs qui voulaient la tête de l'entraîneur, entre des tensions même au sein du vestiaire. Donc c'est important les mots que tu emploies et bien sûr que moi on te croit là-dessus que le vestiaire vit bien. Ça va servir pour enchaîner des bons résultats quand même.
Mais bien sûr, mais nous on a un groupe qui travaille bien et qui cravache tous les jours à l'entraînement parce qu'on n'était pas satisfait des résultats qu'on avait et je voyais des gens dépités des résultats malgré des bonnes premières mi-temps à chaque fois, mais on savait que c'était pas suffisant. Donc nous, en tout cas, on est là, on travaille et tout s'est bien passé hier et ça va lancer quelque chose de grand, j'espère.
Esteban, ça veut dire que la position du vestiaire aujourd'hui, c'est de se dire, nous, on est à fond derrière Habib Bey et entre guillemets, si on a un message à faire passer à la direction, c'est qu'on veut qu'il reste l'entraîneur du Stade Rennais.
Mais quoi que les gens puissent penser de cette situation, que les joueurs, entre guillemets, le veuillent ou non, c'est pas eux qui ont le sort du coach entre les mains, quoi qu'il arrive. À cette heure-ci, le coach Bey est notre coach et on a gagné un match très très important hier avec la manière, avec des idées qui lui sont claires et qui fonctionnent. C'est juste que je considère qu'on a besoin de temps dans le foot et c'est le seul facteur qu'on n'a pas. Donc non, moi je suis persuadé que ça va bien se passer. On l'a prouvé hier avec nos idées à nous, qu'on est capable de rivaliser avec, pour moi, une des meilleures équipes de ce championnat. Et, et avec toute la qualité qu'on a, il va pas avoir de problème.
Merci d'avoir merci. Partagé ces émotions. Bravo encore, bonne continuation et puis t'arrêtes jamais. Tiens, ah si si, la petite dernière avec qui t'es, tu te sens bien dans la passe, parce que quand tu es un buteur, il faut bien des passeurs. Lequel tu préfères?
Moi, il y a tout. Hein. Il y a des passeurs de qualité. Il y a Frankowski à droite qu'on connaît depuis des années. On a Quentin Merlin. Il y a de quoi faire à Rennes. Franchement,
Esteban.
T'as tout compris, Esteban. Vaut mieux avoir tout le monde dans la poche. T'as
raison. Juste pour terminer, Esteban, j'ai un message de Nico sur le numéro WhatsApp 06 12 424 424 qui nous dit: le Paul en équipe de France, bien meilleur que Marcus Thuram et que Randal Kolo Muani. Voilà, il y a des supporters rennais qui s'enflamment.
On te félicite en tout cas.
Bravo.
Merci
Esteban.
Merci encore.
Et dans un instant, la suite des meilleurs moments de Rotten sans flamme, l'interview de Sébastien Pocognoli, coach de l'AS Monaco, avec Christophe Dugarry et Eric Dimeco. Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h sur RMC. À tout de suite.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h sur RMC. Merci de nous écouter, merci d'être présent et fidèle à Rotten sans flamme. On revient lundi avec Jérôme, toute l'équipe, 18h-20h pour lancer cette deuxième partie de saison, la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. RMC Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. À 19h45, les quiz de Louis Gerbier, toujours un grand moment à ne pas manquer. À 19h30 aujourd'hui, est-ce que Trump va massacrer cette Coupe du Monde? On démarre par une interview, celle de Sébastien Pocognoli, nouveau coach de l'AS Monaco.
Bonjour, merci.
Bonjour coach.
Merci coach d'être là pendant cette trêve. Alors c'est toujours un peu long la trêve internationale, déjà pour nous parce qu'on analyse le foot et la Ligue 1, la Ligue des Champions, et on a hâte que ça se termine. J'imagine que pour vous c'est une façon de encore plus faire connaissance avec votre groupe.
Exactement, je pense que la trêve par rapport à ma timeline, quand je suis arrivé au club, elle est arrivée au bon moment maintenant. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, c'était juste après une trêve internationale où on a enchaîné 7 matchs en 3 semaines et on n'a pas eu beaucoup le temps d'aller dans le détail ou même dans l'approche plus individuelle avec les joueurs. Et cette trêve nous permet d'avoir une multiple fonction. Premièrement, c'est de donner un peu de repos à certains joueurs qui ont enchaîné énormément de matchs. Une deuxième, c'est d'aller un peu plus dans les détails à l'entraînement sur certains aspects du jeu. Et aussi pour moi en tant que coach et humain, c'est de bien m'installer à Monaco et de mettre un peu ma patte à tous les niveaux, que ce soit à la Turbie, mais même dans ma vie privée.
Coach, vous savez, vous êtes certainement au courant, parce que consigne à AS Monaco, on se renseigne aussi. C'est vrai que ce qui fait le plaisir des passionnés de l'AS Monaco et des équipes de l'AS Monaco, celles qui ont performé, il y en a eu beaucoup, génération en génération, c'est avant tout la grande qualité technique et ce spectacle qui est souvent au rendez-vous au Stade Louis II. Vous êtes conscient de cette pression que vous avez quand même pour remettre ça en place?
Oui, mais c'est comme vous le dites, il faut le remettre en place. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a eu des manquements et le fait de venir à Monaco aussi, c'est me dire qu'est-ce que je peux apporter avec cette venue. J'ai forcément analysé le groupe, la situation qui était il y a quelques semaines, et je me suis dit ok, il y a peut-être moyen d'avoir un impact à court terme, mais certainement sur le long terme. Donc oui, Monaco c'est connu pour déployer du bon jeu pour au final permettre à certains joueurs d'avoir ce fameux tremplin vers le sommet européen qui est stimulé par une académie de très haut niveau. Donc si on veut stimuler ça, il faut faire du bon jeu. Si on veut faire du bon jeu, il faut le combiner aussi aux résultats, parce que on dépend aussi de la scène européenne pour mettre tous ces joueurs en valeur. Donc il y a cette combinaison d'attentes collectives, mais aussi d'attentes individuelles dans la performance. Et ça, c'est un travail vraiment de fond. Et c'est sur ça que je suis occupé à faire. Et je pense que contre Tottenham, on a vu un match de très très bon niveau technique.
Des belles choses, ouais, c'est vrai.
De très belles choses. Nantes aussi. Toulouse, c'était moins joli, mais on a été consistant dans vraiment garder le zéro et faire une victoire un peu plus moche, ce qui fait partie aussi du
ça fait partie
saison.
Du jeu, ouais.
Voilà, Bodø/Glimt, on a été un peu dominé, mais on a pu avoir une belle victoire
un vrai
au caractère,
mais bravo,
qui n'était peut-être pas dans l'ADN de l'AS Monaco,
c'est sûr.
Mais si on arrive à combiner ça avec le match de Tottenham sur le long terme, on va avoir des bonnes choses. Maintenant, c'est bien de le dire, mais il faut le faire.
Ouais. Coach, justement, Sébastien Pocognoli, entraîneur de l'AS Monaco, invité de Rotten sans flamme ce soir. Vous avez forcément découvert aussi ce que représente le contexte monégasque. À chaque fois qu'on en parle, Jérôme Rotten a envie de me sauter dessus parce que c'est particulier comme club. L'AS Monaco, c'est un club qui est ambitieux, qui est une référence dans le championnat de France, mais qui parfois peut manquer d'engouement. C'est vrai que on parle beaucoup moins de Monaco que de Paris ou de l'OM, par exemple. Est-ce qu'il est dur à appréhender pour un entraîneur ce contexte monégasque? Est-ce que c'est dur parfois de motiver des joueurs quand ils jouent à l'AS Monaco malgré tout le talent qu'ils ont?
Mais ça, c'est la question fondamentale. C'est dans quel environnement j'arrive, quel est l'ADN du club, quelles sont ses forces et quels sont ses, oui, peut-être ses manquements qu'à certains moments. Je pense que l'AS Monaco a plus de qualités que de manquements par rapport à l'ADN. Ça, c'est une certitude, mais il y a certains aspects qu'il faut tenir en compte, qui peuvent altérer le focus ou cette rigueur au quotidien. Je pense que le rôle du club en général et de la direction, c'est aussi d'avoir un coach qui peut apporter cette pierre à ce contexte. Moi, je suis un entraîneur avec une certaine rigueur de travail où l'aspect collectif est beaucoup plus importante pour moi que l'individu, même si mon travail au quotidien, c'est de développer l'individu. Mais cet esprit de travail, de rigueur et de demande, elle est propre à mon ADN. Ça, c'est
vous avez
c'est
constaté un manque à ce niveau-là dans votre effectif? Peut-être des joueurs qui s'endormaient un peu malgré leur qualité?
Premièrement, je n'ai pas encore vu tous les aspects de mon noyau. Donc ça, c'est peut-être une question qu'on pourra me reposer dans quelques semaines, parce que je pense que avoir des leaders au quotidien sur le terrain qui sont le relais du coach et de ce qu'il veut mettre en place peut donner plus facilement un caractère à une équipe. Bah et oui. Malheureusement, on a eu beaucoup d'absences par rapport à ça. Ce qui m'a permis de voir d'autres choses, hein, qui étaient super positives. Mais la réalité, c'est qu'on est inconstant. Alors, est-ce qu'on est inconstant par rapport à l'enchaînement des matchs? Où on n'a pas trop d'options en profondeur pour pouvoir perdurer sur de la constance avec 2-3 matchs par semaine. Ça, c'est une question qu'on va devoir répondre sur le long terme. Mais moi, ce que je peux voir au quotidien, c'est que j'ai des joueurs qui donnent le maximum par rapport à ce que je demande. Et la constance, ben oui, il va falloir l'apporter. Et ça, c'est mon rôle de coach. Mais je ne vois pas une inconstance qui est due à laxisme au D'accord. quotidien ou un manque d'envie des joueurs. Maintenant, moi, je peux encore essayer de profiler certains mental de certains de mes joueurs, mais ça, c'est tout coach qui apporte cet impact. Et
après,
ça,
coach,
c'est travail.
Si vous avez besoin de débat dans les médias pour réveiller votre club, rassurez-vous, on sera là. Jérôme Rotten sera là, Eric Dimeco aussi.
Mais justement pour parler du contexte, avec Jérôme, on a eu la chance de jouer dans ce club-là. Moi, en plus, j'ai eu la chance d'être champion de France en 97 avec deux grands Belges, hein, Enzo Chiffo et Philippe Léonard, que vous connaissez obligatoirement. J'ai pu me rendre compte, et Jérôme aussi à son époque, que pour gagner des titres à l'AS Monaco, il faut être beaucoup plus fort que les autres. Parce que justement, ces moments difficiles dans une saison où on est un peu moins bien, peut-être, fatigue mentale, physique, il n'y a pas la pression extérieure qu'il peut y avoir à Marseille, par exemple, où ça nous booste naturellement, quoi. Voilà. Et je me suis rendu compte que là-bas, d'abord, il faut avoir toutes ses forces en place pour pouvoir être au plus haut niveau. Et il faut être plus fort que les autres. Et du coup, ça m'amène cette question. Est-ce que, du coup, avec tous les blessés qu'il y a à l'AS Monaco, est-ce que vous avez pu évaluer finalement le véritable niveau de votre équipe, et est-ce que vous pensez avoir les armes pour jouer une place de qualificative en Ligue des Champions, pardon?
Alors il y a plusieurs questions, hein, dans cette question. La première, c'est de d'être meilleur que tout le monde ou faire plus que tout le monde pour accéder à quelque chose de un trophée à Monaco. C'est ça la première question, hein.
Il faut faire plus,
on peut être dévié de beaucoup de choses, et ça je le sais. Après, là, je reviens d'un point de vue vraiment d'expérience personnelle. L'année passée à l'Union, je disais exactement la même chose à mes joueurs. On doit faire beaucoup plus que tout le monde parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures. Ouais. On n'a pas la même influence dans le football belge qu'un club comme Bruges ou comme Anderlecht. On a peut-être un peu moins de poids dans certaines décisions. Donc, on a aussi des supports. On avait 9000 supporters dans le stade avec une ambiance bon enfant qui est propre au club, mais où il n'y aura pas une pression sur l'adversaire au quotidien. Donc, je disais toujours, on doit faire beaucoup plus pour atteindre quelque chose. Et on l'a fait, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on a été champion dans cet aspect. À Monaco, il y a d'autres choses pour lesquelles il faut faire beaucoup plus. Et ma question, parce que vous me posez des questions, mais vous qui avez été, qui avez connu le succès à Monaco, c'est quoi la clé pour éviter ces petits pièges? Il y a certainement des éléments, donc... Vous pouvez peut-être aussi me répondre à ça. Quels sont les
éléments? Les éléments, ouais. Coach. Moi, je vous coupe, hein, mais les éléments, c'est déjà d'avoir une union sacrée dans le groupe, que ça soit les joueurs avec le staff, parce qu'il n'y a pas que les joueurs, il y a le staff. Et je trouve que l'ambiance générale qui doit régner au sein du club et quand on arrive pour s'entraîner à la Turbie tous les jours, c'est l'état d'esprit de compétiteur qui doit être bien au-dessus de tous les autres clubs, déjà. Et comment on l'a ? C'est à travers le discours de l'entraîneur, ça c'est sûr, et de son staff, parce que c'est lui qui met ça en place. Moi, j'ai eu la chance à l'époque d'avoir Didier Deschamps, et je le dis, hein, c'est un compétiteur hors pair, peut-être le plus grand compétiteur que j'ai jamais connu par la suite, et pourtant j'ai connu beaucoup d'entraîneurs et de sélectionneurs. Et puis après, il y a aussi les relais, mais ça, vous en parliez en fait, les relais des joueurs qui vont être si vous voulez, pour le groupe de joueurs qui vont empêcher le groupe de s'endormir ou certains joueurs de s'endormir, parce que c'est bien là le problème, et qu'aujourd'hui en effet, pour finir sur cette réponse et cette plus ou moins cette question, c'est que ces relais-là, malheureusement pour vous, ils sont blessés.
Alors voilà, il y a une partie de la réponse et ça a fait. Ça a fait que pour installer cet esprit de compétition au sein même du noyau, il faut que toutes les forces vives soient présentes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cet esprit de compétition va forcément assoiffer tout le monde dans le noyau. Alors, le coach a cette responsabilité et je suis déjà occupé à ça, à vraiment demander beaucoup plus tous les jours. Je peux pas non plus arriver et taper du poids, surtout parce que je dois apprendre d'abord à connaître mon noyau et le fait que j'ai beaucoup d'absence, ça me donne aussi le sentiment que je dois donner beaucoup de confiance à des joueurs qui jouaient peut-être moins et les stimuler dans ce sens. Mais on arrivera forcément dans une deuxième phase d'analyse où la demande sera beaucoup plus haute parce que le contexte sera bien bien clair. Coach. Donc j'ai bien conscience que cet esprit de compétition et cette demande elle est faite au quotidien et on va vraiment certainement s'occuper à ça.
Coach, on va parler des cas individuels maintenant. Alors c'est vrai qu'on a hâte, nous en tant que Français, il est champion du monde, de revoir Paul Pogba sur la pelouse ou au moins dans le groupe. Est-ce que les nouvelles sont rassurantes pour lui? Parce que je sais que quand vous avez pris l'équipe, il était question qu'il revienne dans le groupe et il y a eu cette petite blessure à la cheville. Est-ce que là ça va mieux et il va peut-être intégrer le groupe contre Rennes?
Ça se passe bien avec Paul, hein, vraiment de manière très objective. Après, il est occupé à s'entraîner dur. Il a repris des entraînements collectifs. Après, voilà, je ne veux pas trop m'avancer parce que la dernière fois que je l'ai fait, malheureusement, vraiment de manière très malchanceuse, il a été touché à la cheville. Mais ça, c'est hors contexte de l'aspect vraiment purement physique. Donc là, oui, il est bien occupé à l'entraînement. J'avais donné un commentaire sur le fait que on doit juger Paul sur l'instant T et sur ce qu'il va nous proposer maintenant. Et la nostalgie, elle est tout à fait légitime. Parce que c'est une légende du football français. et cette nostalgie elle doit rester, mais le football il se vit à l'instant présent et exact. Tout moi ce que moi je peux dire et vraiment là c'est d'un point de vue purement coach qui protège mes joueurs, c'est que je pense qu'il va encore nous apporter des bonnes choses si le physique lui permet. Et si...
Est-ce qu'il sera là contre Rennes, coach, si tout se déroule?
On
comme
a encore une semaine d'entraînement. Il a fait 3 jours là de très bonne qualité. Et moi, je suis toujours quelqu'un de positif pour mes joueurs. Donc, j'espère qu'on le reverra très bientôt pour diverses raisons, pour le leadership déjà, que ce soit sur ou en dehors du terrain, tout simplement aussi pour le football français, parce que je pense que c'est quelque chose d'important de le revoir sur le terrain, et pour notre club aussi en général, parce que je trouve que c'est très osé, comme de m'avoir nommé, mais aussi de permettre à Paul de reprendre cet objectif de revenir sur un terrain, et je pense que c'est un magnifique projet et challenge.
Et coach, aussi quand vous le voyez sur le terrain à l'entraînement, est-ce que vous constatez cette entre guillemets qualité supérieure? Est-ce qu'on voit que Paul Pogba est toujours un top joueur malgré
il n'a pas perdu ses qualités footballistiques? Non, il n'a pas perdu ses qualités footballistiques, elles sont là, mais il faut que le moteur suive pour permettre à ses qualités de rayonner au quotidien. Et si on met toutes les choses en place correctement, pas seulement le club, mais aussi le joueur. Et je pense que Paul fait le maximum et il travaille super bien pour se donner cette porte pour revenir au plus haut niveau. Tout le monde fait le maximum. Donc à un moment, oui, je pense qu'on pourrait le revoir sous un très bon niveau.
Sébastien Pocognoli, l'entraîneur de l'AS Monaco dans Rotten sans flamme ce soir. Jérôme, Eric, tu as une question.
Oui, en parlant des cas individuels, moi je voulais parler du petit Akliouche là, qui est international depuis peu, qui devient le leader technique de cette équipe. Est-ce que, alors c'est une bonne nouvelle bien sûr, mais est-ce que finalement, on parlait tout à l'heure du contexte des joueurs un peu tauliers qui doivent tirer le groupe vers le haut, est-ce que d'avoir son leader technique aussi jeune comme ça, jeune international, est-ce que c'est pas problématique finalement, puisque les fameux tauliers sont pas là, sont blessés, et qu'est-ce que le coach attend d'un garçon comme lui, si jeune et déjà international?
Alors, forcément, les absences font que on peut dire oui, c'est un problème. Mais moi, je pense que il y a toujours des solutions. Et une des solutions, c'était de donner de challenger certains joueurs pour reprendre ce leadership, ce qui je pense servira au groupe sur le long terme. Et Magnès fait partie de ces joueurs que j'ai dit à un moment. C'est logique qu'au-delà d'être un leader technique, on peut aussi le devenir dans le vocal ou dans le social. Et Magnès a certainement encore une grande marge de progression par rapport à ça. Et je trouve, depuis mon arrivée, qu'il a vraiment été dans le challenge que je lui ai proposé. Et je suis très satisfait de ça. Et maintenant, ça continue avec l'équipe de France. Et son statut au sein du club va continuer à grandir aussi longtemps qu'il reste les pieds sur terre et qu'il continue à travailler comme il le fait. Il va encore franchir un palier cette année et j'en suis vraiment convaincu.
Vous appréciez, enfin vous donnez souvent des objectifs individuels à vos cadres. Quels sont ceux que vous avez donnés à Marnès Akliouche alors?
Tout simplement d'être plus déterminant dans ses prises de décision, que ce soit au niveau vocal, par rapport à ses coéquipiers, parce que c'est un garçon assez introverti, mais qui est très, très intéressant une fois qu'on a la discussion avec lui. Mais je trouve qu'il peut le mettre aussi au service du collectif sur le terrain. Et force est de constater que c'est lui qui déclenche les presses, c'est lui qui replace, c'est lui qui voit certaines situations avant même qu'elles se passent. Je vais donner l'exemple de son but hier. Avant la diagonale, le côté opposé, c'est lui qui montre aussi avec son bras la passe à faire. Et il anticipe déjà sa position dans le box, et ça pour moi c'est une forme de leadership, même si on ne la voit pas, c'est pour moi quelque chose de très important.
C'est merci. Un bon merci. Moment, merci beaucoup et surtout un gros merde pour la suite parce que Monaco mérite.
On dit Dague Monégou.
Dague Monégou.
Merci beaucoup.
Merci, Sébastien.
Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Interview à retrouver sur la chaîne podcast de Rotten sans flamme sur Apple, Spotify, Deezer, toutes les plateformes de téléchargement ou encore sur les applis d'RMC. Dans un instant, la VAR de Rotten sans flamme. Est-ce que Donald Trump va massacrer la Coupe du Monde? Un grand moment avec Pascal Olmeta et Jean-Michel Larquet. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Ensuite, vous retrouverez l'after pour l'actu foot de la journée. Retour de Jérôme et de toute la bande. Lundi, 18h-20h sur RMC. Dans un quart d'heure, les quiz de Louis Gerbier avec deux doublettes ce soir. Petit Costil et Dugarry Dimeco. Mais tout de suite, c'est donc la VAR de Rotten sans flamme. On parle de Donald Trump.
La VAR de Rotten sans flamme.
Et donc l'événement, eh oui, la musique de la Coupe du Monde. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Washington. 2026. L'événement vendredi soir dans Rotten sans flamme. Le tirage au sort à suivre en direct en intégralité.
Come on, Washington.
Incroyable. Nicolas Pelletier est en direct de Washington DC. Yeah. Hello Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Voilà. Do you speak English?
Ah, little.
Vu l'accent, c'est catastrophique. Ouais. Je t'annonce.
Ah ouais. Mais non, c'est au quotidien.
Alors que je dis que t'es le Corse le plus américain de la planète.
Non, il y a quelque chose qui est très impressionnant ici quand nous sommes à Washington, c'est que il y a un engouement. Proche de zéro pour cet événement.
Ah, je croyais que c'était la température.
Il y a aussi la température, Jean-Michel. Ah ouais. Mais l'engouement est proche de zéro dans la ville de Washington pour cette c'est quand même un tirage au sort de Coupe du Monde avec 48 équipes, 48 nations qui vont venir ici à Washington. Il y a un engouement, il y a zéro pancarte dans la ville de Washington pour cet événement.
Ça va être génial.
J'ai l'impression d'être au salon du livre.
Ah, carrément.
T'as croisé Donald Trump ou quoi?
Alors justement, Donald Trump, le président des États-Unis sera bien présent pour le tirage. Et Nico, c'est ce dont on veut parler ce soir parce qu'en coulisses, son influence est immense dans l'orga de cette Coupe du Monde.
Oui, tous les personnels de la FIFA avec qui nous pouvons échanger depuis plusieurs mois nous disent qu'ils ont la goutte au front à chaque fois que Donald Trump prend la parole sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Sur le front.
Et donc, ils ont peur. Ouais. Ils ont peur.
Parce que lui, il n'a pas que sur le front.
Oh, allez. Écoutez,
la goutte au nez aussi, c'est ça.
Vas-y, Nico.
Et donc, il sera le grand l'invité d'honneur de Gianni Infantino vendredi soir pour ce tirage au sort qui aura lieu au Kennedy Center, une salle qu'il a repris en main. C'est lui le patron de la salle qui se trouve à quelques kilomètres de la Maison Blanche. Et donc, vendredi soir, ça sera l'invité.
Il n'y a pas de conflit d'intérêt là, hein?
Oh là bah.
Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Surtout pour une organisation comme la FIFA qui se veut apolitique, c'est bien d'être assez proche du président américain. Ils étaient aussi très proches de l'émir du Qatar. Et donc, on a fait une petite surprise pour Donald Trump vendredi soir parce que son groupe préféré, les Village People, seront les invités d'honneur de ce grand tirage au sort.
Ils doivent être tout frais, les Village People. Mais quel âge ils ont, les Village People?
Mais moi, je croyais que c'était Pascal l'Indien, non?
Ils ont l'âge du Sporting Club de Bastia, ils sont 120 ans.
Et tous, ils vont aller.
Pascal, on te voit. On te voit.
Voilà, à 4h du mat, bourré, ça a souvent été le cas il y a quelques années.
Mais c'est pas là qu'on met la plume, Pascal. Non, arrête.
Allez, arrêtez de me chauffer, ça va déraper.
Allez, Donald.
Par contre, j'ai mon ami à la Maison Blanche, si tu as besoin.
Qui donne
mon ami Flavien.
Flavien
à la Maison Blanche.
Ah
ouais, Flavien.
Ah bah, c'est intéressant.
Qu'est-ce qu'il fait?
Maison Blanche.
Ils sont gardes spéciales.
Mais gardes spéciales, ok.
T'as confondu la Maison Blanche à Paris, le resto.
Bon, vas-y, Nico.
Belle information.
Vas-y, Nico.
Belle information.
Nico, si tu as besoin, Flavien.
Allez, c'est noté.
Ok, ben, je l'appellerai. Il y aura un autre élément qui sera très important lors de cette cérémonie, c'est qu'on va remettre pour la première fois du côté de la FIFA un prix de la paix. Donald Trump n'a pas eu le prix Nobel de la paix, mais normalement vendredi soir il aura le prix de la paix de la FIFA pour l'ensemble des guerres et des litiges qu'il a résolus. Oui, normalement.
Il a résolu.
On prévoit ça. Et je peux vous donner une petite indiscrétion, c'est que certains membres du conseil de la FIFA, c'est-à-dire les plus hauts représentants de la FIFA, ont appris ce prix de la paix par voie de communiqué de presse. Ils n'étaient même pas au courant de la connaissance
de Gianni Infantino.
Exactement, que Gianni Infantino a décidé tout seul. Et puis il y a un autre élément qui inquiète fortement la FIFA,
c'est le
déplacement de certains matchs lors de cette Coupe du Monde de la FIFA. Donald Trump mette son veto sur certains stades qui sont situés dans des villes démocrates, lui qui est républicain. Donc depuis plusieurs mois, il répète qu'il va déplacer les matchs qui sont dans des villes démocrates. On verra
Gianni va refuser, Nico.
Gianni normalement va refuser, mais Gianni s'entend très bien, il est très ami avec Donald Trump et il n'a pas envie de se fâcher avec Donald Trump. Donc peut-être qu'il acceptera.
Non mais là il y a plein d'infos qui font sourire, mais il y a des infos beaucoup plus inquiétantes sur les populations qui veulent se rendre aux États-Unis pour assister à la Coupe du Monde, sur certains pays qui craignent justement de ne pas pouvoir jouer aux États-Unis et d'être délocalisés au Mexique ou au Canada. Il y a plein d'histoires comme ça qui sont inquiétantes, Nico.
Par exemple, vendredi soir, il n'y aura pas la délégation iranienne. Les représentants de l'Iran ont boycotté ce tirage au sort de la Coupe du Monde parce qu'ils n'ont pas eu les visas nécessaires pour pouvoir accéder au territoire américain. Et il y a un autre élément qui inquiète beaucoup la communauté haïtienne qui est très présente ici aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de visa qui sera accordé pour les supporters haïtiens pour venir supporter leur équipe aux États-Unis. Et on se demande même, certaines personnes nous laissent même entendre, si certains matchs de l'équipe d'Haïti ne seront pas tout simplement au Mexique. Et on ne jouera, l'Haïti ne jouera peut-être jamais aux États-Unis sur cette Coupe du Monde qui se déroule sur trois pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis.
Merci Nico. Là, on en sourit, mais est-ce que ça vous inquiète tout ça, le cirque autour de Donald Trump et de la FIFA?
J'espère qu'ils vont nous donner le droit, nous, de venir aux États-Unis,
Pascal.
Ça, je pense que ça.
Non, mais Jérôme, il pense que.
Que quoi?
D'avoir que son visa. Non, mais les gars.
Mais je plaisante, tu crois.
Oui, je généralise, Jérôme. Ouais. Non, mais je veux dire par là que tu imagines ce qu'on entend, là.
Ben oui.
Mais il va se permettre de. Allez, telle équipe ne rentrera pas aux États-Unis, vous irez jouer au Mexique. Non, mais les gars. Mais
c'est dingue. Les gars, supporters qui ne peuvent pas venir non plus.
Exactement. Mais c'est exactement dans la droite ligne de ce que je disais. Voilà un type, je l'exècre, je ne supporte pas, qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est-à-dire que quand il y a un problème politique dans la fédération du Cameroun, il précipite ses hommes pour que les affaires sont réglées. Et là, on a l'impression qu'il est en train de ramper devant le président des États-Unis. Enfin, j'ai même l'impression que ce n'est pas qu'une impression, quoi.
Ouais, ah non, c'est pas une impression, non.
Et Jérôme. Et c'est terrible.
Qu'est-ce que tu veux que je réponde
ça nous inquiète tout ça.
Bien sûr que ça nous inquiète. Ce que nous dit Nico, ça fait froid dans le dos. Il y a des personnes qui sont, ils vont être interdits de séjour parce que haïtiennes ou d'autres. Même la sélection, elle risque de pas jouer aux États-Unis parce que Monsieur Trump en a décidé autrement.
Et que Gianni Infantino l'accepte.
Mais de façon.
Alors que la FIFA est censée être apolitique.
Et de toute façon, quand tu vois qu'il est à fond dans cette organisation de la Coupe du Monde. Tu sais très bien qu'il va mettre son nez partout, qu'il va réussir certainement à délocaliser certainement. Alors ce qui serait incroyable d'accepter ça quand t'es la FIFA et que t'organises l'événement planétaire, le plus grand événement planétaire de sport. En fait, c'est toujours la même chose. De toute façon, c'est oseille. Là, c'est mélangé avec de la politique. Écoute-moi, c'est problématique. Nous, dans le sport, on a été éduqués d'une façon où, en effet, l'argent, on en a profité et on en profite. Et sans argent, tu fais pas grand-chose. Mais la politique, elle n'existe pas. Et que là, il va tout mélanger, celui-là. Mais tous ceux qui ont fait des débats sur la Coupe du Monde au Qatar, il y a 4 ans, j'espère qu'ils vont se rebeller après tout ce que Nico vient de nous annoncer. Et ce qui risque de se passer. Je pense qu'on en entendra beaucoup moins qu'à l'époque au Qatar.
Il y a des sujets qu'il faut dénoncer. Tu as bien raison. Merci Nico. Continue ton reportage à Washington et surtout tu seras là vendredi pour le tirage au sort de la Coupe du Monde.
Nico, on te sent sur les hamburgers, sur les milkshakes.
Non, mais je vous connais, ai dressé la carte postale, je vous ai dressé la carte postale tout à l'heure, mais je trouve ça quand même inquiétant de si peu d'engouement sur
un
tirage. Il y a peut-être, c'est peut-être l'élément le plus important avant la Coupe du Monde.
Tu es sûr que c'est bon, que au bon endroit?
Ouais, t'es dans la bonne ville, Nico. T'es pas à Milwaukee?
T'inquiète, j'ai récupéré mon accréditation.
Ok, Didier Deschamps, il arrive quand?
Bon.
Il arrive demain.
Ah. Bah écoute, propose une interview. De toute façon, il les refuse plus.
Et
maintenant.
Pourquoi pas, ouais. Et appelle l'ami de Pascal, hein, surtout, qui fait partie de la Maison Blanche.
Pourquoi il y aurait un engouement pour tirer des boules? Je comprends pas.
Allez, merci Pascal. Non. Merci Nico Pelletier.
Jérôme, oui. Je t'invite à écouter ça.
Il est à son meilleur niveau à travers les matchs que je lui vois faire, puisqu'il joue des matchs tous les trois quarts de jour, parce que eux aussi, au-delà de leur championnat, ils ont... la Ligue des Champions, même si c'est la Ligue des Champions d'Asie. Donc, il est à son meilleur niveau. Il est toujours potentiellement sélectionnable. La preuve, puisqu'il est, il est sélectionné. Et, donc, c'est toujours un plaisir pour lui de porter ce maillot.
La VAR de Rotten sans flamme.
Ça te fait rire, Jean-Michel.
C'est quoi? Sélectionnable?
Oui, parce qu'il a été sélectionné. Tout à fait. Ça fait donc un an qu'on n'a plus vu N'Golo Kanté en équipe de France. Il a 34 ans. Il est de retour pour les deux matchs de la semaine prochaine. France-Ukraine le 13 novembre. Azerbaïdjan-France le 16. Kanté évolue toujours en Arabie Saoudite à Al-Ittihad. Il a vécu pas mal de choses avec l'équipe de France. 64 sélections. Champion du monde, évidemment, avec cette doublette mythique avec Paul Pogba. Il profite des forfaits de Rabiot et de Tchouaméni. Il est préféré, par exemple, à un Corentin Tolisso. Est-ce que vous comprenez le retour d'N'Golo Kanté en équipe de France? Jérôme, est-ce que tu es surpris ou est-ce que tu le comprends?
Non, mais moi, je le comprends. Et là où je suis surpris, c'est que Didier lui ait tourné le dos comme ça. Il l'a pu appeler après, pourtant à l'Euro, et on y était... les matchs, ça a été un des joueurs, surtout au début. Après, ça c'est un peu compliqué, mais ça a été un des joueurs qui a donné le plus de satisfaction. Alors tu vas me dire, c'était pas bien dur parce que la prestation de certains était plus que mitigée.
Des noms.
Un des plus réguliers quand même.
Ah oui.
Oui, c'est pour ça. C'est pour ça, Jean-Pierre. Et moi, je comprends qu'il reste en grande forme dans un championnat où il joue la Ligue des Champions. Bon, Didier, il va un peu loin quand même parce que la Ligue des Champions d'Asie, je vous encourage à la regarder de temps en temps. Je suis tombé la dernière fois sur un match. Franchement, c'est juste le nom, la Ligue des Champions, hein, parce que en termes de rythme, tout ce que tu veux, comme l'Arabie Saoudite. Mais N'Golo Kanté,
il y a des bons matchs.
C'est une. Toi, tu suis bien. Bah, c'est plus sur Canal. Alors, je sais plus où tu les regardes.
Sur Twitch. Zach Nani,
ouais. Bah oui. Ouais, qu'on embrasse. Ouais. Mais moi, je vais juste sur N'Golo. Je suis pas étonné qu'il le rappelle parce que si t'as bien une certitude sur la conscience professionnelle et sur le fait que N'Golo, qui joue tous les matchs à deux à l'heure, lui, il les joue pas à deux à l'heure parce qu'il a trois poumons. Voilà. Et ça changera pas. Donc moi je suis pas étonné. J'étais juste déçu de plus le voir en équipe de France. Là le fait qu'il revienne, peut-être que c'est bon signe pour continuer à le voir et pourquoi pas jusqu'à la Coupe du Monde.
Enfin, méfiez-vous hein, parce que Cristiano Ronaldo vient d'accorder une interview dans un média britannique et il vient de dire le championnat d'Arabie Saoudite est bien meilleur que la Liga portugaise et que la Ligue 1. Donc il confirme que
là il a rajouté la Liga portugaise. Ouais.
La Ligue 1, mais il a CR7, il a pas.
Bah non, il la regarde certainement. Il la regarde, c'est pour ça qu'il juge.
Enfin, passionné. C'est mieux d'y jouer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, N'Golo Kanté?
Moi, je pense que d'abord c'est un garçon dans le groupe. Tu sais qu'il va pas faire de vagues et que c'est un garçon qui est
pour ça,
un bon soldat, un vrai bon soldat. Que si tu le mets sur le terrain, il va faire son match. Il va être moins performant qu'il ne l'était il y a 4-5 ans, c'est évident. Mais je reste persuadé qu'en...
Et encore, ouais, c'est ça.
Là, vous êtes... n'envoyez pas le bouchon trop loin, quand même. Je veux bien qu'on soit gentil avec N'Golo, mais les années passent, et pour lui également. Mais... Je suis quand même un petit peu d'accord avec vous quand vous parlez de Tolisso. Moi, j'ai été surpris par son retour en forme et son retour au plus haut niveau avec l'Olympique Lyonnais où il a fait basculer des matchs. Je le trouve très bon. Alors, honnêtement, je regarde plus l'Arabie Saoudite et les matchs parce que je sais pas où il faut les regarder.
Twitch. Ah, si, on l'a dit sur Twitch.
J'ai pas Twitch. Je savais même pas que ça existait.
Oh, quand même,
J'aurais quand même peut-être donné sa chance
à Tolisso. Mais au-delà du fait de Kanté, Tolisso, et quand je vous revois, quand je vois le retour de Colomouani à la pointe de l'attaque, je me dis que le fameux réservoir de l'équipe de France,
le réservoir de Didier Deschamps,
j'ai l'impression quand même que le réservoir, il est peut-être un petit peu, on est un peu sur la réserve là, on est peut-être.
T'as vu tous les blessés qu'il y a aussi.
Oui, donc le réservoir. Il est là, le réservoir, quand il y a les blessés,
il y en a beaucoup.
Et il y a des choix, hein. Bouba Camara, par exemple, n'est pas appelé, alors que ça reste un joueur de qualité.
Ouais, et Pierre Lesmélo aussi, il aurait pu l'appeler, hein.
Toujours qu'il exagère. Il connaît Dédé, il aime ce qu'il connaît, il a confiance, il y a pas de souci par rapport à ça. Et je pense que dans le groupe de Dédé, c'est important, cette valeur-là, elle est importante. Déjà qu'on l'emmerde pas, quoi.
T'es surpris de le voir, toi, N'Golo Kanté, ou pas, JPP, alors?
Non, bah non, pas du tout. Alors oui, surpris, parce que c'est vrai que c'est pas un nom qui ressortait depuis quelque temps. Il était un petit peu perdu là-bas en Arabie Saoudite. Après, sincèrement, le joueur, moi, m'a toujours beaucoup plu. Et il a toujours porté fièrement le maillot bleu. Il a toujours été bon. Donc ouais, moi, c'est pas un choix qui me dérange plus que ça.
Mais moi je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre. Là-dessus, franchement, c'est difficile d'être critique sur N'Golo à tous les niveaux. Et le mec, il fait pas de bruit, il est là, il vient toujours avec le sourire, il fait des bons matchs parce qu'il a toujours fait ses matchs. Et moi, là où je suis pas d'accord avec toi, Jean-Michel, c'est que même s'il vieillit, mais n'empêche que N'Golo, à chaque fois qu'il a été pris en sélection, qu'il a joué, on n'a pas senti le poids de l'âge. J'imagine qu'il sera pas moins performant qu'un Tchouaméni quand il joue ou qu'un Rabiot quand il joue. Voilà, donc.
Mais ça, c'est autre chose, ça, c'est une autre question. Ça,
parce que tu me dis.
Si je suis d'accord avec toi.
Si tu me dis N'Golo, il vieillit, donc il peut plus faire ses allers-retours. C'est sûr que si N'Golo, il est pas au four au moulin sur le terrain comme il a toujours fait, c'est problématique.
Ah, ben voilà.
D'accord. Mais sauf que j'ai la certitude, je regarde pas les matchs d'Arabie Saoudite, mais bon, je pense que Didier en regarde quelques-uns pour le rappeler quand même. J'ai la certitude qu'il arrive en très bon état et que vous verrez, on sera encore surpris de l'état physique de N'Golo.
Tu n'étais pas un fervent supporter de Tolisso, toi. Tu aurais pas.
Non, mais Tolisso, je veux pas. Non, mais déjà, c'est incomparable parce que c'est pas du tout les mêmes joueurs. C'est pas
deux milieux de terrain.
Oui, bah, d'accord, les gars. Non, mais c'est deux milieux de terrain, mais il va pas demander la même chose à N'Golo Kanté qu'à Tolisso.
Après sur le début de saison,
il joue plus haut maintenant, Tolisso.
Il peut le faire.
Bah d'accord, donc en équipe de France, en fait, tu vas déplacer un mec qui joue un peu.
Tu mets bien Warren Zaïre-Emery arrière droit, ça te pose pas de problème.
Mais Warren Zaïre-Emery, il est pris en équipe de France au milieu de terrain, mais moi, j'estime qu'au milieu de terrain, il n'a pas sa place dans le groupe France. Mais ça, ce n'est que mon avis. Et que par exemple, si t'as tout le monde, t'as Rabiot, t'as Tchouaméni.
Mais ils sont pas là.
Non, mais si tu les as, Jean-Pierre, moi, je suis. C'est là que je suis déçu sur Didier Deschamps, sur la façon qu'il a à gérer N'Golo Kanté. Mais quand tu appelles Warren Zaïre-Emery, qui était complètement à la ramasse depuis un an, qui est pas au niveau international, et même encore là, c'est pas parce qu'il a été bon quelques matchs que ça y est, maintenant il faut le remettre. Il faut mettre N'Golo Kanté en priorité. Moi, c'est ce que je pense.
Et tu penses qu'il sera titulaire au moins sur les deux matchs.
En même temps, on rappelle, l'équipe de France a besoin d'une victoire ou alors de deux matchs.
Je le vois bien avec.
Attention.
Je le vois bien jouer.
J'ai entendu Jean-Pierre Papin. Méfiez-vous. Pardon, je voulais pas réveiller les
non, mais Jean-Pierre et Jean-Michel. Moi, je suis sûr que il va jouer avec Koné et Kanté.
Ah, tu penses que Kanté vient pour jouer?
Ça sert à quoi de l'appeler si tu ne penses pas le faire jouer?
La semaine prochaine.
Au moins le premier match.
Ouais, on verra. Écoute, en tout cas, c'est face à l'Ukraine.
Par contre, sur la saison de Tolisso, c'est vrai que ça aurait été mérité d'être sélectionné pour le retour qu'il a fait. Parce que franchement, c'était pas évident.
Il y a un joueur qui a été.
Toi, t'es gentil, Jean-Pierre, tu veux faire plaisir à tout le monde. Toi, t'es gentil.
Non, mais Tolisso, mais Tolisso, c'est plus que la qualité du joueur. C'est peut-être un problème de personne aussi.
Il y a un autre joueur absent qui aurait pu être là, c'est Matteo Guendouzi, qui n'a pas été appelé, qui joue avec la Lazio.
Ça, c'est un joueur préféré de Jean-Michel.
Tu m'allumes.
C'est vrai, c'est un fait. Moi, je...
non, mais entre Matteo et Aurélien, il les a tellement torpillés.
Comment dire aux Pays-Bas, il va m'énerver.
Bah quoi, Matteo Guendouzi joue tous les matchs à la radio, là, il n'est pas appelé. Moi, je comprends pas.
Jean-Michel, j'ai une question moyenne pour toi. Tu préfères qui, Guendouzi ou Tchouaméni?
Oh là.
Hein? Ah d'accord, bon, c'est bon.
C'est difficile, écoute, laisse-moi réfléchir au moins le week-end. Là. Au moins.
Et dans un instant, la fin des best-of des meilleurs moments de Rotten sans flamme avec les quiz de Louis Gerbi. À tout de suite sur
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme, jusqu'à 20h ce soir sur RMC, le grand retour en direct de l'émission. C'est lundi avec Jérôme, toute la bande, pour lancer cette deuxième partie de saison. On est vraiment ravis et impatients de vous retrouver. Et tout de suite, pour clôturer cette émission best-of, les quiz de Louis Gerbier. C'est parti.
Et sur le terrain.
Tous contre Rotten.
Salut Louis.
Salut Louis.
Salut Louis. T'es du gars. Du gars, tu oui. t'imagines, en plus que tu as perdu le procès, il manquerait plus que tu aies une mauvaise note. Quelle soirée, quoi.
Ah bah tu verras. Ah ouais. Écoute le podcast, ouais. Tu peux être surpris. Hein.
Ah putain, il vient de. Tiens. Il va plus venir, du gars.
Non, mais Mathieu, pour quelqu'un qui a regardé
bonsoir
tous les matchs de Ligue 1, je peux pas
Benjamin,
le mettre mauvais.
Ça, c'est, ah ouais, tu vas aller.
La récompense.
Bonsoir l'équipe.
Allez, les gars, on se dépêche. On est en retard. Mathieu, tu veux jouer avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Le reste du monde.
Allez. Ah bah dommage.
Allez, et Benjamin et Jérôme.
Allez Benji, on va les plier.
Maison Scarlett, vas-y Louis.
Alors les amis, vous avez fait un débat sur l'OM en tête.
Ouais. Oh non. Non, mais c'était il y a 20 ans ça.
Ouais, donc alors on va faire un quiz l'OM champion.
Là on y est. Excellent.
Alors, en quelle année l'OM a été champion pour la dernière fois?
2010.
Très bien. Eric, bien joué, c'est Eric.
Mais
t'es pas de Marseille, t'es de Robion, c'est normal.
1-0 pour Jérôme.
2010, ouais. Ça remonte quand même, hein. Ça aurait presque pu faire une question là.
Allez, enchaîne.
Attention, il faut me donner deux réponses.
Oh là là.
Combien de Ligue 1 a gagné l'OM? Réponse 1 selon la FFF. Réponse 2 selon l'Olympique de Marseille.
10 selon l'OM, 9 selon la FFF.
Eh ben non. 9. L'OM, ils en comptent encore une de plus.
10 et 11.
Ah non.
9 et 11.
Voilà, bonne réponse.
Bravo du gars.
Puisqu'on compte aussi le championnat amateur de 1929.
Très bien. Bah nous aussi on le compte.
On en apprend tous les jours.
Allez, un partout.
Question auditeur.
Ben pourquoi on le compte pas, je comprends pas moi.
Question auditeur, Mathieu contre Benjamin.
Qui était l'entraîneur lors du dernier titre de l'OM en Ligue 1?
Deschamps.
Point pour Jérôme Breton. Question auditeur.
Peut-être qu'en 2030, vous aurez Benjamin. Compris le principe de la question.
Déjà qu'ils ne s'entendent pas entre eux, mais ils n'écoutent pas les questions.
Les questions du gars où tout le monde répond.
Ouais, mais
Louis, quand il parle, il bafouille. Il a la moitié du temps.
Alors que toi, c'est limpide. Question du patron.
Salut, c'est Jérôme Breton.
RMC. La question pour le patron.
Allez.
Toujours il l'année. Il des notes, il se fait appeler patron. Il a un boulard, le mec, sans déconner.
C'est pas moi.
Non, mais il va falloir arrêter.
Bon. Et tout le monde répond.
Ouais. Tout le monde
répond. Pas un peu trop, les gars.
Laissez-moi finir l'année.
Tout le monde répond. Quel ancien coéquipier de Jérôme à Monaco a été champion avec l'OM cette année-là?
Morientes.
Bien joué.
Oui, bien sûr.
Deux partout, bravo.
Morientes, il était dans le.
Eh ouais.
Mais bien sûr.
2-2.
L'effectif.
Question con, le jeu de mots douteux.
Ah.
Quel arrière-droit champion en 2010 avec l'OM?
Il est bonheur.
Oh là 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 là. 3-2 pour Jérôme.
Ah, je suis déçu parce que j'avais toute une phrase et tout.
Ah, vas-y.
Mais elle est pourrie, ta question. Quand tu dis l'arrière-droit, tout le monde le connaît quand même. T'es nul, Louis, quand même, à un moment donné.
C'est pas Abby Bay, pas gagné un titre.
Bonheur qui a fini sa carrière à Châteauroux.
Très intéressant.
Question flash. Super. Quel autre champion avec l'OM en 2010 a fini sa carrière dans le merveilleux club de la Berrichonne de Châteauroux?
Ah, je l'ai.
Et formé à Rennes.
Je l'ai.
Il est formé à Rennes?
Oui.
Leroy?
Non.
Non.
Défenseur central?
Ou milieu de terrain? Ouais. Cissé?
Milieu de terrain ou défenseur central?
International camerounais.
C'est comment il s'appelle déjà?
Camerounais,
quand même. Très fort.
Mais comment il s'appelle?
Mbia, bravo du gars.
Mbia, Mbia.
Toujours
3-3. Ouh là là.
C'est le petit point hebdomadaire sur la qualité de la fibre au Maroc. Et encore une fois, c'est nickel.
Ça marche bien.
Allez, c'est la roue déjà.
On est champion du monde, nous. Est-ce que tu es
la roue peine.
C'est la roue déjà. Il y a quoi là, Mathieu?
Il y a 3 partout.
Benoît répond pour tout le monde.
Il y a 3 partout.
Sauf pour Jérôme.
Non. Et moi, c'est moi qui réponds.
Là, il n'y a personne.
Et moi, je joue avec le reste du monde.
Bah, je pense que le producteur a une dent contre Jérôme ces derniers temps.
Si j'ai faux, c'est Jérôme qui gagne.
Question Costil alors.
Oh, arrête, c'est un gardien.
Non, question mais, Costil.
Non mais j'espère qu'elle est dure ta question.
Oh oui, Greg, il est ça.
Ça veut dire quoi Costil?
Oh oui, va opposer Richard.
Il est de retour.
Il est de retour.
Oh, ça suffit.
La question Costil, c'est qu'on cherche un gardien. On cherche un gardien.
D'accord.
Gardien mythique de Ligue 1, Benoît. Et vous avez compris là-haut que vous ne pouvez pas répondre, il n'y a que Benoît.
Il n'y a que moi qui peux répondre.
Cette année-là, en 99, c'est le titre qu'ils n'ont pas gagné à cause du Paris Saint-Germain et que Bordeaux a remporté.
Arrête.
On est en 99.
Ouais, tu te fous de ma tronche, toi.
Cette année-là, qui garde les buts marseillais?
Oh, mais arrête.
Il est vieux, je crois, Benoît, donc il va le savoir.
Non, mais...
Moi, je dirais Stéphane Porrato.
Bonne réponse de Benoît Boutron.
Et bravo, reste du monde. C'est, et c'est là où je suis tombé amoureux de l'OM. Bravo, en tout cas, à Mathieu qui remporte ce magnifique cadeau.
Tous contre Roten sur RMC avec Maison Scarlett. La marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Une semaine avec des champions.
Ils sont fâchés, mais ils ont gagné le quiz. Bravo à Christophe Dugarry et Eric Dimeco.
RMC. Tous contre Roten.
Salut Louis.
Salut l'équipe. Venez, venez.
Louis Gerbier qui est là. Et deux auditeurs, deux supporters de l'OM ce soir, Florian et Cédric. Salut à vous deux.
Salut les gars.
Ils vont être champions.
Est-ce qu'il y en a un qui veut jouer avec Jérôme?
Non.
Je veux bien jouer avec Jérôme.
C'est qui? C'est les deux.
Bah, c'est le plus objectif.
C'est Florian. Ouais, Florian. Florian avec Jérôme. Cédric avec Jérôme.
Je veux bien. Il était désespéré.
Je veux bien avec Jérôme.
Ouais, c'est clair. Le cadeau, une carte cadeau de 100 euros chez Maison Scarlett, fabricant français de boîtes à bijoux et de boîtes à montres. Vas-y, Louis, c'est parti.
Il a dit je veux bien, on a entendu, j'ai pas le choix.
Tu es pas obligé d'en rajouter. Non, mais attends.
Le thème du soir, Bayer PSG.
Ouais, Bayer.
Là, vous m'avez pas vu venir.
Manu fait très bien l'accent. Allemand.
Oui, bah on va éviter.
Non,
je veux pas choquer les auditeurs.
La dernière fois, je t'ai appelé le grand blond, c'était tout un drame.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'as oublié les yeux bleus.
Oui, ouais. Bah oui, parce que j'ai trouvé pas.
C'est la caricature.
C'est vrai, allez, on y va.
C'était pas.
Question flash.
C'est pour... pas folichon.
Ouais. Pour se mettre dedans, là, quel est le nom du stade du Bayer Leverkusen?
Bah oui, ça c'est un bah, super
on
triche stade.
Pas, on laisse les smartphones, on trouve pas.
C'est le Bayer Arena, non?
Eh ben non, c'est la Bayer Arena. Ah.
Et eh ben voilà.
Bah,
mais pourquoi t'as pas dit Ben Costil? Il avait peut-être.
J'ai dit Arena.
Ouais, mais parce que
non, je l'avais pas. Non, je l'avais pas, honnêtement.
J'ai dit la Bayer Arena, c'est ça?
Non, c'est juste Bayer.
Bayer Arena.
Mm-hmm. Ah, wow. Et 3 points à celui qui me donne l'ancien nom en 5 secondes.
L'ancien Leverkusen Stadium.
Ouais, bah ça faisait 5 secondes. Ou le Richard Berland Stadium.
Ah, oui, comment tu veux qu'on sache?
C'est pour ça qu'elle valait 3 points.
Allez,
question du patron.
Salut, c'est Jérôme Roten.
Oui. RMC, la question pour le patron.
Quel titi parisien transféré au Bayern, pour 14 millions à 11 sélections en équipe de France?
Il connaît.
Non, c'est pas il connaît.
Non, c'est l'autre.
11 sélections.
On sélectionne.
Oui, Djabi, Moussa Djabi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ah, tout le monde peut répondre.
Bah, c'est bon.
Bravo, Ben.
Tu peux répondre?
Ouais.
Je pensais que c'était pour
Djabi,
le bot.
J'ai confondu. Non, tout le monde peut répondre.
J'ai confondu
question,
avec le. Avec,
1-0 pour le reste du monde. Bravo, Benoît.
Allez, bah, une petite question.
Merci bien.
Le jeu de mots douteux. Quel ancien parisien et ancien joueur du Bayer aurait été boulanger s'il avait été anglais?
Becker.
Baker.
Allez,
ah oui. Yeah, Baker,
pour
merde.
Pour ça, il faut être bilingue. J'y suis.
Ouais, mais avec Baker. L'accent écossais.
Non, avec Baker Street, salon. Je suis bilingue, mais en allemand.
2-0 pour le reste du monde.
Question d'Imeco.
Bravo, messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
Nous sommes à la recherche d'un joueur de plus d'1m90 qui joue au Bayer actuellement. Il a commencé au Paris FC, puis au Havre, et puis à Lens, au Stade Rennais, à Nottingham Forest,
Terrier.
À Séville.
Badé.
À 90.
Oh, Badé. Loïc Badé.
Loïc Badé de Emmanuel
Petit. Alors à qui on le donne? On le donne à Manu qui a dit Baldé en premier ou à Ben Costil qui a dit Badé?
Je me suis trompé.
Ben a dit Baldé.
Ah oui, vrai. Mais ça a été
répété. Je confonds du entre deux joueurs.
Ça fait 3-0 pour le reste du monde. Jérôme est pas du tout dedans. Ça ne
la question,
rien
GG.
Bon pour le PSG.
Non, mais on finira comme les Grecs. Sortez vos liquidités. Non, je rigole pas.
Il y a l'espoir.
Faites gaffe à votre épargne. Placez votre argent.
La question GG.
Ça fait peur.
De quelle grande ville allemande Leverkusen est-elle la proche banlieue?
Munich.
Non.
Hanovre.
Dortmund.
Hanovre.
Peut-être parfumé un peu.
Berlin. Cologne.
Oui, bonne réponse de Jérôme.
Il est là.
Cologne.
3-1. Allez, une dernière question sur l'actualité. Une question con numéro 2. Quel joueur de Leverkusen est toujours sur son 31? Il est blessé en ce moment.
Ah, en plus, alors.
À chaque fois qu'il débarque, il est toujours.
Réfléchissez.
Patrick Schick.
Oui.
Ah oui, Schick. Voilà. Ouais.
4-1.
Mais il joue pas ça.
Non, il joue pas, il est blessé,
on t'a dit.
Je pense qu'il était revenu. En 2014, il y a eu un 8e de finale, Leverkusen PSG.
Ah, on s'en souvient.
0-4 à l'aller, 2-1 au retour pour Paris Saint-Germain. On commence à ce sujet, sur ce match, avec une question auditeur, Florian Cédric.
Allez.
Quel joueur parisien a marqué son premier but en Ligue des Champions lors de la confrontation contre Leverkusen en 2014?
Le Latan?
Non. Son premier de sa carrière en Ligue des Champions. C'était un défenseur.
On peut pas répondre.
Non,
Marquinhos.
Oui, bonne réponse.
Qui a dit Marquinhos?
Florian.
Ça fait 4-2.
Question petit.
Ah. J'aime la bouffe, j'aime les voyages, j'aime le sexe. Ah,
Le top, c'est de faire les trois en même temps, en fait.
Ouais.
Oula.
Je suis pas sûr d'y arriver sur la saison, parce que c'est déjà un, c'est dur. Quel joueur, donc on est toujours en 2014, hein, Leverkusen PSG. Quel joueur réputé fêtard et porté sur la chose était titulaire au PSG?
Verratti.
Lors de l'aller et du retour.
Ah, je l'ai.
L'Avezzi.
Bonne réponse.
L'Avezzi.
Bravo. Et Ben Costil, il est stratosphérique. Ouais. Ça fait 5-2.
Ça va, j'ai une réponse. Il calme
tout. Tout ce qui est festif, j'aime bien.
Il triche.
Et le délicat.
Non, mais vraiment, il faut être une belle équipe.
Quelle star de Tottenham était titulaire pour Leverkusen en 2014?
Son.
Bien joué. Oh,
putain. Ah, oui. 5-3. Ça débite, hein.
Question Costil.
Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard.
Il est de retour.
Il est de retour.
Oh, ça suffit.
Quel joueur non, je viens de la dire celle-là. Qui était le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain lors de cette confrontation en 2014? Vous aviez Sirigu dans les
2004.
Nico Duchesse. C'est Jérôme juste avant Nicolas Duchesse.
4, oh, c'est très serré.
Dis la douche.
Oh. Eh, là vous trompez pas, je vous le dis. Hein. Je fais plus le quiz de l'année.
La bonne réponse vaut 3 points.
Donc c'est une balle de match entre Jérôme et le reste du monde.
On va faire un truc un peu dur alors. Question Tirandicompte.
Tirandicompte, si tu poses une question à un supporter italien dans quelques années, qui est cette plus forte?
Et on embrasse
Coach Courbis.
Avec l'accent italien de Coach Courbis. Hein.
La réponse avec l'accent italien de Coach Courbis, on cherche un défenseur parisien lors de ce match. Qui est passé ensuite par Cagliari.
Défenseur quoi?
Défenseur pour l'instant. Après je
vais dire
le match Paris-Leverkusen 2014.
Ouais. Il est titulaire lors de Paris-Leverkusen en 2014, il jouait en défense et ensuite il est
côté de Paris.
Oui, côté de Paris.
Qu'est-ce que tu es pour fort, Thiago Silva?
Non.
C'est quoi ta question?
Alex, non. On cherche un défenseur parisien qui a joué lors de Paris Saint-Germain Leverkusen en 2014.
Quelle nationalité?
Et qui ensuite est parti à Cagliari.
Lugano, j'ai une grosse connerie.
Non.
Avec accent italien de Coach Courbis.
Oui, l'accent. Indice, heureusement qu'il est grand, sinon il aurait été retrouvé mort dans la Vologne.
Ah, Grégory.
Oui.
Grégory. Qu'est-ce que tu es pour fort, Van der Ville.
C'est Manu.
C'est moi.
Grégory Van der Ville.
Manu l'a dit.
Manu
et non, il a dit Grégory.
Et
moi, j'ai enchaîné sur Van der Ville.
Il a dit trop
l'accent. Et vous dites pas avec l'accent. L'accent italien.
Qu'est-ce que t'es plus fort?
Et donc, c'est la victoire de Jérôme Roten et de Florian qui remporte un magnifique cadeau.
Donc, victoire en PSG ce soir.
12 contre Roten sur RMC avec Maison Scarlett. La marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Un grand merci à Louis Gerbier.
merci à Ben Costi, à Manu Petit. Et voilà les meilleurs moments de la saison de Rotten sans flamme. Et je suis ravi de vous retrouver dès lundi avec Jérôme, avec toute la bande pour la deuxième partie de saison. On va se régaler jusqu'à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Bonne soirée à tous sur RMC. Bye bye.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme. Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.